With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est commencé là?
Ah, non.
Non, c'est... non. Non,
tu
ça,
me sors
parce
que
t'as
un
exemple
super bien. Mais moi, je n'ose pas dire.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit...
Si tu regardes que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Saletan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Un Saletan spécial aujourd'hui, puisqu'on vous propose à nouveau un format interview, histoire de parler des films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, ils sont dans les starting blocks, prêts à dégainer leurs questions. On retrouve Stéphane. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Julien. Salut Julien.
Salut Clémence.
Et puis aux manettes, celui qui contrôle absolument tous les micros de ce studio. Salut Alain.
Salut tout le monde.
Aujourd'hui, mesdames, messieurs, non pas un, mais deux invités. Duo de choc du cinéma d'horreur français, ils sont inséparables depuis 2007. C'est cette année-là qu'on les a découverts avec À l'intérieur, un film qui avait fait partie de la sélection de la Semaine de la Critique à Cannes. Ils remettent le couvert en 2011 avec Livide, Aux yeux des vivants en 2014 et Leatherface en 2017. Aujourd'hui, ils viennent nous parler de leur dernier long-métrage, The Deep House. Bonjour Julien Maury.
Bonjour Clémence.
Et bonjour Alexandre Bustillo.
Bonjour.
The Deep House, donc, c'est l'histoire de Tina et Ben, un couple passionné d'urbex, l'exploration de lieux construits puis abandonnés par l'homme. Pour alimenter leur chaîne YouTube et faire un maximum de vues, ils décident de plonger au fond d'un lac et de s'aventurer dans une maison engloutie sous les eaux, une maison aussi mystérieuse qu'angoissante. Alors ce film, vous l'avez réalisé, mais vous avez aussi écrit le scénario, hein, comme presque tous vos autres longs-métrages. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette revisite sous-marine du grand classique de la maison hantée ?
Bah écoute, tout simplement, Julien et moi, en fait, pour voir vraiment l'affaire basique, on se pitch continuellement des idées. C'est-à-dire qu'on adore traîner, marcher longtemps et se pitcher des idées improbables. Et c'est venu comme ça au cours d'une promenade, comme ça, sans but, dans Paris. Et puis on se quitte comme ça et on parle tout le temps de cinéma, en fait. Et on se dit, putain, mec, on adore les films de maison hantée et on adore les séquences sous-marines dans les films. Voire on adore l'univers marin et sous-marin, ça nous passionne depuis toujours. Et on se dit, putain, t'imagines un film d'horreur de maison hantée, mais sous l'eau. Puis on se dit, ah, mais grave! Et donc, tu vois, tout est venu, en fait, tout a découlé d'un coup, en trouvant juste cet amalgame de deux univers assez antagonistes sur le papier. On a tout de suite eu le titre. Tout de suite, on s'est dit, oh ouais, puis on appelle ça La Maison Profonde, The Deep House, bam! Et le soir même, en fait, on grattait un pitch de trois lignes. On prenait un plongeur dans une banque d'images qu'on collait sur un fond d'une photo d'urbex, justement. On a mis un filtre un peu water par-dessus. Truc bidon, hein, vraiment bricolé à l'arrache. Et juste avec ça, du coup, le lendemain, on avait un producteur, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a présenté à Clément Miseret, qu'on connaissait un petit peu. Et le mec, mais tout de suite, sur ces trois lignes et cette photo, mais bricolée à l'arrache, nous dit, bah, ouah, j'adore, on y va. Alors qu'on n'avait même pas de scénar, hein, tu vois. Et donc, après, on a pu écrire le scénario, etc., développer le film normalement. Mais avec déjà un producteur, ce qui est vraiment un grand luxe. Donc, c'était une idée qu'on a exploitée tout de suite et qui a porté ses fruits immédiatement. Donc, on est plutôt chanceux.
Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi ça a fonctionné comme ça, en fait, à votre sens, en fait ? Moi, j'ai ma petite théorie, en fait.
C'est-à-dire par rapport au producteur.
Ce mélange, en fait, de thématiques de la maison hantée et d'univers sous-marin aquatique. Qu'est-ce qui a fait que les deux ont aussi bien collé en fait. C'est juste le côté inédit pour vous ou il y avait autre chose?
Nous, ça, je pense qu'il y a, oui, effectivement, ce côté inédit. Le fait aussi que t'as jamais vraiment de film intégralement sous l'eau. Nous, tout de suite, c'est ce qu'on voulait faire. Mmh. Quand on l'a présenté à Clément, en fait, nous, on lui disait, mais mec, par contre, on pourra peut-être y revenir après, mais c'est 100% sous l'eau. On voulait faire vraiment un film qui commence à être directement dans la plongée et sans dialogue, c'est-à-dire avec des plongeurs équipés de détendeurs classiques, ce qui t'empêche de parler, et qui communiquent que par le langage de plongeur.
Ça va,
le langage des plongeurs qui est très complexe. Hein, tu vois, on avait
C'était avec des sous-titres
avec des sous-titres. Évidemment, là, c'était un peu trop high concept pour un producteur, ce qu'on comprend largement. Donc, on est revenu à quelque chose de plus classique. Mais je pense que, tu vois, je ne saurais pas te dire pourquoi ça marche ou si ça ne marche pas à l'arrivée. Nous, ça nous excitait tout simplement et on trouvait que la combinaison des deux était assez inédite, tout en restant, tu vois, dans un, entre guillemets, un chemin balisé de film d'horreur, mais qu'on voulait un peu rendre plus original avec cette approche inédite visuellement, en tout cas.
Mais en fait, je me permettais de vous poser cette question-là parce que je trouve que pour moi, c'est une des réussites du film. C'est que, justement, l'univers sous-marin induit forcément une imagerie un peu éthérée qui évoque justement les apparitions spectrales, les fantômes, etc. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à... Moi, ça m'a frappé, en fait, à plusieurs moments dans le film, mais notamment, par exemple, t'as ces chandeliers, en fait, qui flottent dans l'air ou les tissus aussi où t'as l'impression que c'est un peu habité et tout, où je me suis dit, de fait, en fait, même sans l'intervention d'un élément surnaturel, en fait, tu te retrouves plongé littéralement, sans mauvais jeu de mots, donc dans un truc qui évoque, en fait, l'imagerie du fantôme, de la présence invisible, en fait, du haut truc. C'est pour ça, en fait, que je vous posais cette question-là, en fait, parce qu'il me semblait, en fait, que oui, effectivement, il y avait quelque chose qui était profondément logique là-dedans. Profondément sans jeu de mots aussi. Mais je vois que j'ai fait un four monumental, donc continue peut-être.
Non, pas du tout.
Moi, je valide ces jeux de mots-là.
Bah, peut-être, en fait, pour continuer aussi, il y a la question de fabrication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est un film qui est tourné en anglais. Ouais. Ce qui est bon, vous avez déjà fait des films en anglais, mais à la base, j'imagine que vous vouliez le tourner en français.
Muet,
dans cette logique-là. Hein,
vous voulez le tourner
en
muet.
En muet, c'est vrai, oui, bien sûr. Mais pourquoi, du coup, d'un seul coup, comment ça se retrouve, en fait, dans ce type de fabrication, ce qui est quand même un peu encore rare en France de faire des films français, c'est français,
ouais,
cool. Mais en fait, tourner en anglais avec des acteurs à mi-chemin, etc., etc. Donc, quelle est la logique de prod derrière, en fait?
La logique, elle est toute simple, hein, c'est-à-dire que donc nous, comme le disait Alex, on a travaillé avec une société qui s'appelle Radar et qui est dirigée par Clément Miseret. Et en gros, ils avaient déjà fait ça, c'est-à-dire des films 100% financés en France, mais qui ont la gueule de films anglais, quoi, ou américains.
Par exemple,
The Secret de Pascal Laugier, ou Ghostland. Et du coup, il a eu raison, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours cette défiance du public français vis-à-vis du genre français. Et mine de rien, quand il arrive avec un film avec Jessica Biel et qui ressemble à un film américain, ça s'est ressenti dans les entrées, quoi.
Et même en termes de budget, j'imagine, du coup.
Et en termes de budget, évidemment, c'est-à-dire que d'un coup, le film devient exportable, devient exploitable à l'international. Donc c'est une logique en fait de production qui est tout à fait recevable dans un contexte un peu difficile de production en France. Nous, quand ils nous présentent ça, nous en fait, faut savoir qu'on est toujours en discussion avec les producteurs, on n'est jamais en opposition. Donc nous, quand ils nous présentent son plan, on lui dit bien sûr, ok, pas de problème, mais nous aussi on veut s'y retrouver, on a envie que ce soit en France, donc du coup c'est pas 100% anglais, il y a du franglais, enfin ça parle français, ça parle anglais dans le film, et on joue là-dessus sur les incompréhensions et tout, donc ça faisait sens, quoi, pour l'exploitation du film, parce que c'est un film, c'est un concept, donc du coup le film, il s'est vendu partout sur la force du concept, tu vois, juste une maison hantée sous l'eau, ça excite l'imaginaire tout de suite. Et donc ça, c'est... alors nous, pour le coup, c'est pas du tout du calcul ou du cynisme, hein, tu vois, comme t'as dit Alex, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire du brainstorm d'idées, du ping-pong de croisements improbables. Et donc on cherche pas ce qu'appellent les Américains le hook, tu vois, qui nous disent souvent, ils nous disent ça, ils nous disent ok, mais c'est quoi le hook pour le public,
le hook,
tu vois,
le page turner,
exactement, tu vois, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre film d'horreur, ou tu vois, et donc Donc nous, c'était une démarche qui était sincère, mais dans les faits, qui est rentré dans ce cadre-là, c'est-à-dire que tout le monde a fait « Ah ouais, génial !» Tu vois, c'est pour ça qu'on l'a... Voilà, Jason Blum l'a acheté avant que le film soit terminé, que Universal l'a acheté aussi tout de suite, parce qu'il savait que ça avait un potentiel, quoi.
Et du coup, l'arrivée du coup des dialogues, enfin le fait que vous ayez quitté ça, c'est arrivé aussi, c'est le producteur en fait qui vous a dit non mais on arrête les bêtises.
Ouais.
c'est passé comment? Enfin les bêtises, non, parce que trop... c'était hyper alléchant.
Bah ouais, pour nous aussi, mais là tu vois pour le coup, très vite s'est posé la question de la faisabilité. Avant même de parler de dialogue ou pas, on s'est assis avec Clément à une table et il nous a dit bon les gars, moi j'ai fait 40 films, je sais faire des films entre guillemets normaux, mais par contre celui-là, je ne sais pas comment on le fait. Nous, on avait plus ou moins déjà réfléchi avec Julien, donc tu vois, on lui a dit bah, c'est simple, Clément, on construit une maison sous l'eau, et puis on met des mecs dedans, quoi. Je veux dire, où est le problème?
Aucune imagination.
Ça, évidemment, c'est faisable, mais ça a un coût, évidemment. Donc on savait très bien que pour le coup, tu vois, nous, tous nos films jusqu'à celui-là, on était au maximum en termes de budget à 2,5 millions, 2,6 millions, à peu près.
Y compris les Leatherface?
Les orfèses, c'était encore moins. Les orfèses en coût de fabrication. Alors, ils annoncent, il faut savoir, par exemple, quand les Américains annoncent un budget, comme ils l'ont plus ou moins annoncé sur les orfèses, entre 6 et 7 millions de dollars, c'est un budget bidon. C'est-à-dire que c'est un budget, déjà, les mecs, ils gonflent un peu les trucs. Dessus, ils vont se prendre, les prods vont se prendre plus de la moitié, voire les trois quarts du budget en salaire.
Vous prenez encore un quart chacun. Donc
on prend de la merde, on peut dire nos salaires sur les orfèses, parce que le fait est qu'avec Julien, on est plutôt, c'est plutôt une bonne affaire de nous engager, c'est qu'on n'est pas payé double, c'est qu'on divise nos salaires par deux. C'est qu'on divise le salaire. Il y a des mecs qui font, quand ils sont à leur premier film, qui gagnent mieux leur vie que nous, parce que nous, on n'en a pas forcément plus qu'un réal lambda seul, mais sauf qu'on divise, la paye, quoi. Donc on est plutôt abordable.
Faut changer ça, les gars, maintenant.
Ouais, mais c'est aussi... Non, mais bref, tout ça pour dire que tu vois, les Orfès, en coût de fabrication, on était à 1,5 million de dollars. C'est-à-dire qu'on n'avait rien, mais on n'avait que dalle. Donc, et pareil pour Aux yeux des vivants qui a coûté 1,3 million, etc. Donc c'était plutôt dans des petits budgets. Et là, évidemment, on savait très bien pertinemment, d'entrée de jeu, hein, que c'était pas faisable ce film avec 2 millions, voire 2 millions et demi. Donc Clément, lui, il me dit, moi les gars, je peux lever un peu plus, c'est-à-dire on est à l'arrivée à 4,6 millions. C'est quand même une belle plus-value, c'est presque 5, on a presque doublé nos budgets, ce qui n'est pas négligeable pour nous. Mais évidemment, c'est une contrepartie. C'est comme l'a dit Julien, bah, tu vois, lui, il est là aussi, c'est pas un mécène, hein. Il est là évidemment pour faire du business et c'est tout à fait normal et compréhensible. Et nous, on n'est pas là pour lui faire perdre de l'argent. Nous, on n'est jamais là pour se rentrer en conflit avec les producteurs, sauf si ça devient extrême.
Quoi, ils coûtent pas cher, ils sont là pour faire gagner de l'argent.
Sauf évidemment sur les Orfès. Toi, où les Orfès, on s'est battus, mais comme des chiens, quand on a vu comment Millennium et nous enculait et nous traitait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les mecs nous répondaient même plus, nous fermaient la porte au nez, nous ont menti. Et là, par contre, on devient des pitbulls, c'est-à-dire qu'on lâche pas le morceau. Mais c'est pas du tout notre but à la base. Mais quand c'est pas fair play, tu vois, dans la façon de faire, on s'énerve. Et donc, bon, bref, tout ça pour dire qu'on savait qu'on allait avoir besoin, entre guillemets, de beaucoup d'argent, ce qui est assez conséquent, hein, 4,6 millions d'euros. Et donc, cette concession, c'était avoir une scène d'intro au sec, parce que lui, en tant que producteur, il était persuadé qu'il fallait avoir une identification avec les personnages. On pouvait pas, c'était trop expérimental, trop high concept de, parce que nous c'était l'homme et la femme sur l'ébauche du truc, tu vois, il y a pas de prénom. Dis les gars, on peut pas avoir deux silhouettes en tant que héros. Et donc je veux un peu plus de scènes au sec pour justement les présenter, avoir plus d'identification, plus d'empathie après pour eux, etc. Donc tout de suite et voilà, comme je te disais, notre but, c'est pas de se braquer. On a dit, déjà, on trouve un mec qui, sur la foi d'un pitch, nous dit, moi, ça me penche, on y va. Donc, on n'avait pas tout saboté, parce qu'on veut faire un truc, tu vois, ultra high concept qui aurait intéressé peut-être deux personnes. Et je pense qu'à la raison, à l'arrivée, il a eu raison. Tu vois, vraiment, je pense sincèrement que le film aurait été vraiment trop expérimental. Une heure et demie sous l'eau, sans dialogue. Je pense qu'au bout de 40 minutes, on perdait la moitié des spectateurs qui faisaient, ouais, ça aurait été cool en moyen, ou métrage, voire court-métrage tout court, mais... Et donc, à l'arrivée, on est très content. On n'est pas du tout frustré, en tout cas, d'avoir renoncé à l'idée de base du film qui était d'être sans dialogue. Et on s'y est retrouvé vraiment artistiquement, quoi. C'est-à-dire, on ne s'est pas senti du tout violé ou mal considéré, comme on l'a été, par exemple, sur Les Orfèses, où là, vraiment, les mecs font aussi du business, mais sans vraiment prendre soin des gens. Alors que Clément, c'est un peu un producteur américain. Vraiment, dans l'esprit, c'est-à-dire le mec peut foncer sur un coup de cœur, sans se prendre la tête à attendre des autorisations, des trucs comme ça, comme le font les Ricains, hein, finalement. Mais sans le mauvais côté des Américains, c'est le mec, il a une vraie humanité qui fait qu'il peut imposer, voire des choix de production qui peuvent avérer très brutaux comme ça sur le pas de pied, mais avec un sens du dialogue qui fait que, bah, en fait, voilà, on est entre gens de bonne compagnie et ça se passe bien finalement. Tu vois, nous avec Julien, on peut tout entendre. Le seul truc qui fait la différence, c'est le ton sur lequel on nous parle, tu vois. Après, on peut entendre tout ce qu'on veut. Regarde, tu vois, Steph, enfin, un exemple très concret, non, mais vraiment, ça fait depuis qu'on fait des films que tu n'aimes pas ce qu'on fait, mais ça n'a jamais, tu vois, empiété sur nos relations.
C'est vrai. Alors, il faut peut-être préciser.
Parce que c'est la manière de présenter les choses. Et nous, on peut tout entendre avec Julien, mais vraiment, mais vraiment, sans déconner, hein, tu peux insulter ma mère si tu le dis bien. Ça passe. Je rigole.
Mais justement, là, en fait, c'est vrai que pour préciser aux auditeurs, nous, on se connaît depuis 25 ans maintenant.
Ouais.
Hein, même Julien, je le connais depuis 20 ans, hein, sur les bancs de l'ESRA, quoi, à l'époque. Quoi.
C'est vrai, ça.
Ouais, ouais.
Ah, ouais, c'est,
c'est vrai, dans les mêmes promos. Ouais. Et en gros, c'est vrai que depuis le début, moi, j'ai jamais vraiment. Enfin, moi, je vous aime, vous, mais j'ai jamais vraiment aimé vos films, quoi. Ceci dit, bon, c'est je trouve qu'on est plus ou moins d'accord. Mais non, mais il va y avoir un petit côté probablement good cop, bad cop, en fait, dans cette émission, hein, quand on va rentrer un peu dans le nerf de la guerre, quoi. Et par exemple, Clémence a beaucoup aimé le film.
Moi, j'adore Clémence. Moi, je que pour la voix de Clémence.
Voilà. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que les auditeurs ne le savent pas forcément, ceux qui débarquent.
Oui, c'est vrai. On se connaît très bien. Temps,
voilà, on se connaît très bien. Du coup, parlons un peu du film en soi. Moi, je voulais parler d'un point déjà spécifique. Et là, je pense que c'est lié aussi à, comment dire, au budget et au, ce que vous aviez comme ambition par rapport à l'idée de faire le film, c'est que du coup, il est tourné en, et là, je vais utiliser le terme simili found footage. C'est-à-dire que c'est du found footage, c'est-à-dire qu'il y a en fait une grosse partie qui est, c'est des caméras, puis une troisième caméra, les caméras des plongeurs, plus une troisième caméra qui est un drone, en gros. Il y a quand même des plans qui ne le sont pas. Par exemple, la scène d'intro, enfin pas la scène d'intro, mais juste après le générique, ouais, en fait, quand elle est dans sa salle de bain.
Ouais.
Donc j'imagine que l'idée, c'était quand même de, comment dire, de pouvoir tourner autant que vous pouviez tourner pour et vous en sortir avec le plus, en fait. Mais moi, j'ai le problème que quand on me dit que c'est un fan footage, sans me dire que c'est un fan footage, tout en étant un fan footage quand même, bah du coup, je me perds un peu dans la mise en scène. Parce que pour moi, c'est quand même, ça indique un cadre qui est censé être très cohérent et qui se perd, je trouve, dans votre film. Mais voilà, c'est maintenant que c'est dit.
Pour le coup, je suis pas trop d'accord avec ça. J'ai des réserves aussi sur le film. Mais, j'ai justement envie, parce que je pense que c'est... Bon, je sais en fait que c'est arrivé un peu plus tard, en fait, ça, l'idée du found footage, en fait, dans la conception du film, c'est pareil, ça a été dû aux contraintes budgétaires, non? C'est ça, plus ou moins, ce que j'ai cru comprendre, mais...
Moi, je pense qu'on va plutôt écouter Clémence.
C'est intéressant, en fait, de savoir, parce que c'est pas votre idée à la base, quoi, en fait, non? C'est
si,
bien sûr.
Non,
le truc, c'est que évidemment, nous, notre première idée, elle était très conceptuelle, comme l'expliquait Alexandre. Et donc, c'est deux plongeurs on était dans l'action plongée avec eux tout de suite, vraiment.
Donc, en found footage.
Ouais.
D'accord, ok.
C'était
ça, en fait. C'était vraiment retrouver ce côté ultra. Il y a des détracteurs, mais ça peut aussi être ultra flippant. Il y a un côté qui nous séduisait là-dedans. On s'est dit, du found footage avec juste des lampes torches comme ça, dans le noir, sous l'eau, il y a quelque chose qui peut vraiment super bien marcher. Ensuite, le truc, c'est que on s'est donc rapidement posé des questions techniques, tout simplement, de se dire, ok, on va accrocher les caméras sur les masques, donc qu'est-ce que ça va donner concrètement? Est-ce que ça va pas être trop shaky tout le temps? Est-ce que ça va pas être dur à suivre? Donc on a rajouté donc cette caméra de point, puis le drone qui est arrivé ensuite, qui lui, pour le coup, on l'a tout de suite pensé comme un outil, en fait, justement pour poser la narration. C'est-à-dire, on s'est dit, celui-là, il va nous servir pour faire des plans larges qui vont situer l'action, qui vont nous permettre géographiquement de pas perdre le spectateur, quoi. Et donc, notamment, de bien voir où on est dans les pièces, dans les couloirs, de les voir s'enfoncer, de faire « Ok, d'accord, ils vont par là », etc.
Et puis de la plus-value. C'est-à-dire, à un moment donné, avoir un beau plan de la maison sous l'eau, parce que c'est quand même, vous l'avez construit, ce truc, quoi.
Exactement, ouais.
Ouais, alors justement, moi, je voulais vous en parler de cette maison sous l'eau. Donc, le tournage a été réalisé en Belgique, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et il y avait des spécificités. Tourner sous l'eau, ça implique des mesures de sécurité.
Non, aucune.
Non. Non, mais notamment quelque chose auquel on peut ne pas penser, mais les pièces n'avaient pas de plafond, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, ça faisait partie des trucs auxquels on a dû. Enfin, c'est-à-dire que tout a été imbriqué en termes de fabrication, c'est-à-dire que. Encore plus que sur un tournage habituel, la déco avec la lumière donc, et la sécurité qui est venue se greffer là-dessus ont influé sur la construction des décors. Donc oui, il n'y avait pas de plafond. Au mieux, on avait des morceaux de plafond. Donc qui nous permettait quand même de faire des plans un petit peu en contre-plongée, parce que l'idée c'était d'éviter au maximum les contre-plongées pour pas avoir à tout reconstruire en VFX après. Et donc on avait quand même quelques angles, tous les angles étaient faits, donc ce qui nous permettait d'avoir un peu de latitude. Et puis on avait parfois des toiles tendues qui donnaient un peu l'illusion du plafond, quoi. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des recoins où il faut cacher des bouteilles de sécurité, des bouteilles d'air, des recoins où il faut cacher les plongeurs sécurité qui doivent rester sous l'eau, donc dans les pièces de la maison en même temps que les comédiens. Donc oui, ça a été surtout compliqué les moments où dans le film, je vais faire attention de ne pas spoiler, mais en gros,
nous ici, on spoil, hein.
Alors donc
il y a des fantômes,
il y a des voilà, mais qui sont vraiment incarnés, c'est-à-dire que nous pour ce film on voulait faire tout en vrai, on voulait vraiment ce sentiment totalement viscéral de ce que peut représenter une plongée, et donc ça participait de ça aussi, de faire des fantômes pour de vrai. Donc on a dû prendre des apnéistes. Et donc les jours où il y avait les apnéistes, ça devenait très 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 militaire en termes d'organisation, puisque il y avait pour chaque apnéiste, il y avait deux plongeurs sécu en surface, donc apnéistes eux aussi, plus des plongeurs sécu en bouteille sous l'eau pour les surveiller. Les apnéistes, certains, on va pas entrer dans le détail, donc restaient sous l'eau, et donc on leur donnait donc de l'air entre les prises, donc ils attendaient l'action, ils enlevaient l'air, ils jouaient la prise, ils reprenaient l'air, ils restaient sous l'eau en permanence. Donc ce qui implique aussi ne pas être trop long dans notre préparation et dans notre reset de chaque scène, parce que eux, mine de rien, même si l'eau elle est chauffée, ils se refroidissent, parce qu'on pouvait pas cacher de combinaisons trop épaisses sous leur costume, etc. Et on avait des apnéistes qui, plus jeunes, et qui, pour le coup, eux, devaient faire un vrai travail d'apnéiste, c'est-à-dire monter en surface, replonger à chaque prise. Et donc, entraînés par un plongeur, on la met en place, hop, elle joue sa scène, on la remonte en surface, etc. Donc, ça faisait partie de la manière de penser le film, quoi.
Mais du coup, en racontant tout ça, on en revient un petit peu sur la façon de le filmer. L'idée, en fait, finalement, du found footage, ça semble plus simple aussi, parce que ça demande finalement une mise en scène entre guillemets moins travaillée, puisque on accède plus facilement que ce soit plus cru, quoi.
Évidemment, mais c'est surtout aussi que tu vois, sous l'eau, tu doubles tout par trois, c'est-à-dire le temps de tournage.
Donc, vous avez tourné il y a combien de jours?
On a tourné en 33 jours sous l'eau, donc ce qui est rien. On avait tourné à l'intérieur en 35 jours, pour donner un ordre d'idée. Donc tu vois, la moindre comédie française, un plan de travail, c'est 40-45 jours. Nous, on a fait le film avec le sec compris en moins de 40 jours, avec 5 jours au sec pour la première bobine. Le reste, on a perdu des jours de tournage à cause du premier confinement sous l'eau. On en a perdu deux. Mais donc, pour revenir à ta question, Steph, sur la mise en scène et cet étrange mélange conceptuel entre le found footage et la prise de vue classique, c'était voulu d'entrée de jeu. C'est-à-dire que Juju et moi, on est... moi, je pense peut-être encore plus que toi, mais moi, c'est un sous-genre ultra décrié, mais que j'adore, le found footage. C'est-à-dire que moi, depuis Cannibal Holocaust et Blair Witch, je suis fasciné. Je sais, alors toi, c'est l'antithèse. Hein.
Non, après, moi, j'aime bien.
Mais REC, c'est chef-d'œuvre.
Oui, mais j'aime bien REC parce qu'ils ont poussé, ils ont compris les règles aussi du truc et ils ont.
Non, mais bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais en tout cas, moi, dans l'absolu, c'est un sous-genre qui, bizarrement, m'attrape.
Pourquoi t'aimes ça autant?
Je pense que c'est justement, j'y crois plus. Tu vois, c'est juste un côté d'identification et d'être projeté dans le truc. C'est d'un coup, tu vois, j'y crois plus. Tout bêtement, tu vois, tout de suite, alors que même n'importe quel nanar, tu fais mon fond de footage, putain, il y a un côté, on brise le quatrième mur qui fait que je suis dedans et que, tu vois, j'ai l'impression vraiment de beaucoup plus d'être immergé, comme tu vois, par exemple.
Donc quand tu vois une vidéo sur YouTube avec un mec qui se prend un coup de pied dans les couilles,
tu sais que. Non, mais par exemple, les vidéos de fantômes à la con sur YouTube et tout, moi, c'est les trucs qui me font le plus flipper, les trucs captés au portable à l'arrache. Bon, avec Julien, on les traque, ce genre de vidéos, parce qu'il y a vraiment des trucs, mais super flippants. Bref. Tout ça pour dire que ce sous-genre, en tout cas, on l'apprécie. On l'a choisi économiquement parce que si on a tourné en tout à 4 caméras, ce qui est plutôt pas mal. Nous, on a fait nos 3 premiers films à une seule caméra. On a eu deux caméras pour la première fois de notre vie sur Laserfest. On attendait qu'à deux caméras. On était là, waouh, c'est génial, deux caméras. Candy Shop, pareil. On n'avait pas d'équipe B tous les jours, mais quand même, on a tourné majoritairement à deux caméras. Et là, on se retrouvait avec un dispositif où il fallait... Parce qu'on savait que notre temps de plongée allait être limité, que ça allait être bordélique, qu'il fallait aller faire vite sous l'eau. Parce que la prépa était tellement dingue. C'était tellement une inertie longue, tu vois, un truc à mettre en route, qu'une fois en position de combat de tournée, il fallait ramasser le plus de rush possible. D'où ces multiples points de vue. Et si chacun de ces points de vue avait été, tu vois, celui d'un format classique de cinéma, c'est-à-dire un caméraman avec tout ce qui est induit en tant qu'équipe derrière, tu vois, tout ce qui est induit, pardon, en tant que, c'est-à-dire un assistant cam, etc. Là, on explosait notre budget. C'était impossible d'avoir autant de techos, de techniciens sous l'eau. Donc très vite, on s'est dit, bah ouais, c'est du found footage, comme on vous le disait dès le début. Mais aussi, on avait envie que ça soit pas que du found footage. Alors, on a essayé ce format un peu bâtard de prise de vue classique avec ce début, tu vois, qui mélange justement le cinéma, entre guillemets, dit classique et le found footage. Un peu ce qu'avait fait déjà en son temps Grégory Levasseur sur Pyramide, c'est-à-dire c'était un vrai mélange de found footage et de prise de vue classique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, c'est pas le débat, tu vois, mais c'était déjà une sorte de parti pris un peu bâtard. Et ce qu'avait plus ou moins fait déjà Aja indirectement avec Frank Calfoun, c'est aussi pour ça que nous on tenait absolument que ce soit Baxter, notre monteur, qui monte le film. C'est ce qu'ils ont fait finalement aussi sur Maniac, où t'as ce principe du found footage, entre guillemets, qui est du hide, tu vois, qui est du point de vue des yeux d'Elijah Wood, mais c'est un concept qui, dès la première scène, il nique. C'est-à-dire que le mec, il fait un raccord dans l'axe, tu vois, il est dans sa voiture, il cligne des yeux, et après, tu vois, il est là. Tu vois, donc, et là, tu dis, ah ouais, mais c'est ce côté-là, ok, on va faire un truc, mais aussi, à un moment, s'en libérer aussi un petit peu. Alors, ne pas être esclave du système.
La libération, dans certaines scènes, je peux comprendre, encore une fois, mais c'est vraiment, je me pose cette question, qu'il y a des moments de mémoire, hein. Après, maintenant, vous connaissez mieux le film que moi, évidemment, mais des moments où je me disais, mais attends, le drone, il était là-bas, puis d'un seul coup, il est dehors, tu vois, ou alors...
On ressort jamais de la maison.
Alors, il était au-dessus, puis d'un seul coup, il est en dessous, tu vois, enfin, c'est des trucs où non, en fait, c'est des petits moments comme ça, où on sent que, bah, en fait, finalement, vous êtes servi, enfin, en tout cas, le monteur, hein, Baxter, s'est peut-être servi de ce qui semblait plus...
Alors, on était là, tous les jours avec lui, hein, donc...
qui revient le choix, c'est pas la question. C'était vraiment en fait de dire, voilà, à un moment donné, il y a des moments où d'un seul coup on se perd dans la topographie, on va dire, des trois caméras, et que en fait on a l'impression que, puisque ça on sait que c'est le plan du drone, puisque l'autre est mort, puisque bidule, que machin, tout ça, je sais pas quoi, tu vois. Donc du coup c'est là où tu te dis, tiens, mais en fait, la caméra elle est un peu où elle veut, quoi, si tu veux, un peu omnisciente. C'est ça que je me disais. Mais après, bon, ceci étant dit, c'est important aussi de préciser cette chose là vis-à-vis du found footage, et peut-être on passera ensuite à autre chose si vous avez des trucs à rajouter. Ce qui fonctionne vraiment pour moi dans le film, c'est le fait que vous tourniez justement tout en dur au final. C'est-à-dire que la vraie plus-value du film, c'est au bout de 20 minutes, on est sous l'eau, on ne sortira plus jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin, on sort, il y a une petite surprise dans le générique de fin pour ceux qui veulent voir, mais vraiment, il y a l'idée que vous assumez complètement le truc, quoi. Donc ça fonctionne aussi à cause de ça, quoi.
Moi, j'aurais quand même rajouté un truc sur le front footage. Je suis très étonné en fait que ce soit dès le début, parce que j'ai aussi vu une espèce de refus aussi du found footage. Je veux dire par là que le found footage se définit aussi par des plans qui sont de fait en caméra portée systématiquement, avec une espèce de mélasse visuelle en fait au bout d'un moment. Enfin, je pense que pour toi, Alex, c'est pas de la mélasse visuelle, mais enfin voilà, moi c'est comme ça que je le perçois dans les plus mauvais. Et en fait, je me suis dit aussi, ils se sont permis aussi ça parce qu'ils sont sous l'eau. C'est pareil, c'est la même chose que pour la maison hantée en fait. Alors je vois peut-être des parallèles là où il y en a pas en fait initialement, mais je me suis dit, en fait, sous l'eau, n'importe quel opérateur caméra, qu'il soit professionnel ou amateur, en fait, t'es un steadicammer, c'est-à-dire que t'as de fait un mouvement de caméra qui va être extrêmement fluide, qui va pas être saccadé, tu ne vas pas être dans un rapport de marche, et tu vas avoir des travelling en fait en permanence. Et je me suis dit, je pense qu'ils se sont aussi permis ce format de filmage là aussi parce qu'ils savaient qu'au final ils auraient une image et des cadres en fait qui seraient relativement comment vous dire, posé, quoi. Enfin, je sais pas comment le définir autrement, quoi.
Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a fait des tests avant, on a tourné un court-métrage pour préparer le tournage, et donc on a testé des textures, on a testé des lumières, des couleurs pour voir comment ça ressortait, et on s'est rendu compte de ça tout de suite. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais putain, en fait, on est totalement libre de faire des mouvements qui sont improbables, qui se font que dans l'animation ou alors en pure CG, et donc effectivement de faire des 360 qui passent dans tout dans tous les recoins d'une pièce et tout, et en étant extrêmement fluide et très souple, quoi. Donc oui, évidemment, t'as raison. C'est-à-dire que c'est que j'en parlais un petit peu tout à l'heure du côté justement shaky qu'on voulait éviter. Mais c'est en fait c'était aussi en fait d'entrée de jeu notre manière d'envisager le film. C'est-à-dire que même dans la partie au sec, en fait, donc on a une mise en scène traditionnelle, classique. Et qu'on ponctue déjà, on l'entrecoupe de petits morceaux, on voit ce qu'ils sont en train de filmer, quoi. Et donc pour nous, c'était une manière justement d'habituer déjà le spectateur un petit peu à se mettre dans pour pas que ce soit trop violent, le moment du passage sous l'eau, ça y est, c'est fun footage, et donc il y a ce sentiment de deux films en un avec une rupture et tout. On voulait vraiment que ce soit beaucoup plus fluide que ça. Et pour autant, on avait vraiment un découpage et une mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'on avait beau avoir toutes ces caméras, mine de rien, tu vois, on avait des plans dont on avait besoin pour la narration. Et ça, c'était aussi super compliqué parce que nos comédiens devaient jouer, mais en plus devaient cadrer. Oui. Donc, c'est-à-dire que nous, au micro, on leur disait Attends, lève le menton, là, on voit rien, on voit pas tes mains. Ah, ok, là, c'est bon, là, on voit ce que tu fais et tout. Non, tilt, tu vois, machin, tourne la tête à gauche, incline et tout. Et donc, des fois, ça donnait des trucs un peu bizarres, mais nous, à l'image, ça rendait bien. Et c'était donc on avait tu vois des scènes qui étaient storyboardées, on avait tu vois c'était pas genre allez on va emmagasiner de l'image, ça sera un film de monteur, pas du tout, tu vois, on savait vraiment ce qu'on voulait, donc des fois c'était du coup un peu compliqué, mais en tout cas ça faisait partie du processus, quoi.
Ah, justement, je me demandais en fait comment vous aviez bossé avec Baxter, quoi, là-dessus, puisque tu parles de films de monteur, quoi, parce que moi j'ai quand même eu la sensation parfois en fait que vous aviez emmagasiné des blocs comme ça et qu'il y a une partie en tout cas de la mise en scène et du découpage qui avait été faite en post-prod en fait, en fonction de ce que vous aviez pu récupérer, engranger en fait dans des sessions de tournage. J'avais l'impression que c'était assez conceptuel en fait dans le tournage où vous engrangiez des séquences entières et après vous remontiez et vous...
Ah, mais c'est exactement ça, Julien. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur le tournage, donc comme disait Julien, en se préparant au maximum. Donc on a déjà, parce qu'on n'avait jamais tourné sous l'eau, donc on a tourné un court-métrage sous l'eau pour vraiment donc s'habituer à l'élément et pas arriver comme des novices. Et après, en fait, avec notre chef opérateur Jacques Ballard, on a fait des prévises, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a construit numériquement la maison sur un logiciel de prévises. Et comme ça, après, on a découpé tout le film avec lui dans sa cave pendant des jours et des jours en disant qu'est-ce qu'il nous faut vraiment comme plan, etc., etc. Donc, on a fait vraiment tout le film avec ce storyboard animé. Et après, pour s'en dédouaner un peu, tu vois, lors du tournage, c'est un peu toujours ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on prépare beaucoup notre découpage en amont avec Julien. Et après, on se sent pas forcé de le suivre, mais on l'a si jamais, déjà pour avoir une intention pour l'équipe, pour communiquer avec l'équipe, parce qu'évidemment, tu vois, avant chaque plongée, on avait aussi des maquettes en dur de la maison et des pièces avec des Playmobil en guise de plongeur pour refaire les trajets, leur dire les gars, vous faites ça, vous passez là, la sortie elle est là, là nanana, les bouteilles d'oxy elles sont là nanana, tu vois, donc c'était une grosse prépa. Mais après, comme tu dis, une fois qu'on était lancé, on tournait comme des oufs. C'est-à-dire qu'il y a certaines journées, on faisait 7 heures de rush.
Ouais.
Donc, ce qui est...
C'est énorme.
Il faut savoir que les auditeurs peuvent se dire, c'est quoi, c'est
normal.
Rush. Ouais. C'est pas normal. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup. Généralement, une caméra fait entre 45 minutes et une heure de rush par jour. Donc, tu vois, nous, généralement, on se retrouvait sur quasiment tous nos films, soit avec une heure de rush quand on avait qu'une caméra, soit deux max quand on avait deux caméras, comme sur Les Orfesses, par exemple. Et là... On avait 7 heures de rush, évidemment, et là, Baxter, il croulait littéralement sous les rushs. Donc, c'est-à-dire que nous, pendant qu'on tournait, on avait son assistant à côté de nous, qui déjà faisait un premier dérushage pour déjà écrémer. C'était un peu, on l'appelait le chercheur d'or. C'est-à-dire, le mec, il recevait 7 heures de rush d'un coup. Dedans, il y avait 6h30 non exploitables, tu vois, de mec qui se veut. Le mec qui. Enfin, tu vois, parce que c'est un bordel de se tourner sous l'eau. Et le mec, il devait écrémer. Et tout ce qui était mortel, c'était rentrer dans un bin, tu vois. Voilà, ça, tu gardes. Et après, Baxter passait par-dessus.
Surtout quand on avait pas de script au début.
On avait, comme des malades, on s'est dit, viens, on tourne sans script. On s'est dit, ouais, ça sert à rien. Mais bizarrement, alors que d'habitude, le script, c'est notre merde. Mais c'est la première fois, mais je te jure, au bout de 3 jours, on a fait, une script vite. Nous-mêmes, on s'est étonnés en se disant, alors pourtant, c'est l'importance de la script, du script en tout cas.
C'était pas tout à fait notre choix, c'est-à-dire que
Ah, c'est vrai que c'était...
Bah, ouais. C'était un petit peu le directeur de production qui nous a dit « Super, on a un film qui est atypique, donc on va pouvoir rogner sur plein de trucs, la coiffure, les scripts, tu vois, et donc le maquillage et tout. »
Le son, surtout, parce qu'on n'a pas le fait son. Le son direct.
Oui, c'est une autre question aussi que j'avais, mais oui.
Et donc, du coup, et donc, il était tout content d'avoir fait toutes ses économies, sauf qu'effectivement, au bout d'une semaine, on a commencé à l'appeler au secours et à dire « Non, mais là, c'est pas possible, on rentre trop de rush. Les moments qui nous plaisent, tu vois, qui les note, quoi, tu vois, qui les cercle sur des sur 7 heures, tu vois. Non, mais si, là, il y avait un plan qu'on pense qu'il va nous servir. Tu fais... Donc, du coup.
Tu passes ta nuit à le scanner.
Ouais, c'est ça, quoi. Donc, du coup, ouais, si, ils nous ont.
Alors, justement, oui, aussi, parce que c'est le truc aussi, c'est que vous avez, donc, ils ont des masques, donc, ils parlent, au final, contrairement à ce que vous vouliez initialement, qui laissent voir une partie de leur visage. Alors, peut-être qu'on peut parler aussi de la recherche du masque, parce que ça, c'est aussi tout un bordel. Enfin, alors, on se connaît, enfin, on a tous la vie sans tête. Et à quel point ça va être un bordel, en fait, d'avoir un système pour voir les trucs. Et moi, l'autre truc, c'est que du coup, la voix est totalement décorrélée de ce qu'on voit de l'image. C'est-à-dire que tu peux être en post-synchro tout le temps. Tu pourrais quasiment refaire tout un film. Et du coup, c'est aussi une question aussi que je me suis posée, en fait, en regardant dans le film. Je me suis dit, mais quelle quantité, en fait, de réécriture des dialogues vous avez faite en poste, en fait,
assez.
Bah oui, j'imagine que c'est conséquent.
Mais
quoi,
c'était à la fois un luxe et un piège.
Pourquoi un piège?
C'est un peu un piège parce que, en fait, tu te retrouves avec un terrain à défricher de nouveau, alors que t'es, mine de rien, t'es timé. C'est-à-dire que nous, on avait quand même un calendrier de post-production à respecter.
Mais attends, vous avez dit tout à l'heure 8 mois de montage. Non, j'ai mal entendu.
Non, j'exagère. On a monté de juillet, bon, c'était un peu les vacances, allez, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, toi, on a fait 4 mois, 4-5 mois.
Ouais, d'accord. Bon, c'est pas mal, hein, quand même.
Oui, c'est bien. Mais on aurait pu encore monter, mais des semaines et des semaines. D'accord. Et en fait, les dialogues n'ont pas foncièrement trop changé par rapport à ce qu'on avait écrit, mais on pouvait, en tout cas, comme tu dis, les ajuster, les changer à loisir, parce qu'il n'y avait pas de labial, tout simplement. Donc, et en ce qui concerne les masques...
Ça n'empêche pas, tu sais, Yann Moi...
Cinéman.
Donc, excusez-moi, hein, les gars.
Ouais, ça, c'est vrai. Et les masques, en fait, on n'avait évidemment pas l'argent pour en designer des « à nous », entre guillemets, comme ont pu faire les mecs sur 47 Meters Down. Donc, on fait des masques qui ne sont absolument pas des masques praticables, mais des vrais masques de cinéma pour voir l'intégralité du visage. Mais ça,
pour les gens qui ne connaissent pas 47 Down, c'est un huis clos sous l'eau avec des plongeuses, hein, je crois que c'est
deux meufs avec des
requins, en fait, qui les entourent. Elles sont bloquées, en fait, dans une...
Voilà, et donc elles ont des masques intégraux qui sont bien larges sur les côtés, où vraiment tu peux shooter, avoir vraiment l'expression du visage sous tous les angles. Et nous, en fait, non, on n'avait pas les moyens de faire ça, ni le temps. Et donc, en fait, on a juste acheté les masques. C'est des masques de vrais plongeurs, des Ocean Reef, tu vois, pour leur faire un peu de pub, et qu'on trouve partout. Même le drone, hein, on l'a acheté. C'est un high bubble, mais par contre, qu'on a désossé. C'est-à-dire qu'il était coqué, mais très moche, tu vois. Une sorte de triangle orange dégueulasse, et tu vois, avec une couleur flashy pour que les mecs le voient sous l'eau, c'est normal.
Bien sûr.
Nous, on le trouvait visuellement immonde, donc on l'a carrossé, on l'a désossé, on l'a pimpé pour le transformer comme il est à l'image à l'arrivée. Mais après, le casting de masques, nous, ce qu'on voulait pas, justement, c'était éviter les faux masques, tu vois, où vraiment tu dis ils sont dans des bulles, etc., comme dans 47. Et donc, c'était une bénédiction de trouver ces masques qui pour nous, faisaient la blague. C'est-à-dire, on voyait pas la bouche, donc ça nous arrangeait, parce qu'on savait très bien qu'on allait avoir tout à refaire en post-production, et on avait aussi ce luxe de pouvoir refignoler un peu certains trucs. Et avoir, par contre, assez de visuels sur leurs yeux qui allaient être le moteur principal.
Que vous avez
moyen d'expression
aussi, non?
On les a bricolés, les masques.
Il y a un rhome de LED
LED qu'on a mis au-dessus des yeux, évidemment. Les masques ont été retravaillés, bien sûr. Justement, comme tu dis, pour éclairer les visages. Mais dans l'absolu, ils ne sont pas du tout inédits au film.
Et alors, comment ça se passe de diriger des comédiens, des comédiennes sous l'eau? Vous n'étiez pas sous l'eau avec eux, vous étiez...
Au sec, peinard.
James Cameron, mes fesses. Hein,
on n'a pas le même degré de plongée de James Cameron. Hein. Tu sais que les assurances nous empêchaient de plonger. Hein.
C'est vrai? Ah ouais.
Bien sûr. Nous, on a demandé, c'est le premier truc.
D'accord. Vous êtes ouais, en fait,
il faut
j'en ai déjà fait, mais loisir. Ouais, j'en ai fait 3 ans à l'avant-doux, mais on n'a pas de degré. Tu sais, c'est comme les arts martiaux.
Oui, non, mais je connais.
Des putains de degrés, quand même.
Ouais. Non, en fait, pour plonger dans le bassin, en fait, c'est un bassin de tournage donc, qui avait ouvert un an avant qu'on y arrive. Donc, c'est le plus grand bassin de tournage d'Europe. Donc, c'est en Belgique, en banlieue de Bruxelles. Et en fait, c'est un bassin qui fait 9 mètres de profondeur et donc équipé pour les tournages. Et donc tout le fond du bassin, donc c'est une grille, donc c'est-à-dire que tout le plancher remonte comme un ascenseur jusqu'à fleur d'eau. Et donc ce qui nous permettait d'amener les décors construits par des grues et les poser, les remonter, les patiner. Et nous, ce qui nous permettait aussi de répéter dans les décors vraiment au sec. Donc nous, ça c'était la première phase vraiment de la direction d'acteurs, c'est-à-dire c'était déjà les déplacements. Et donc, parce qu'évidemment, sous l'eau, on n'a plus du tout les mêmes repères. Et ça paraît une évidence, mais ne serait-ce que les déplacements d'un plongeur qui est donc à l'horizontale, avec les palmes, il fait 2 mètres de long. Mmh. Donc même une femme, c'est plus de 2 mètres. Et donc, du coup, tu ne te déplaces pas de la même manière dans une pièce quand tu es allongé que quand tu es debout. Et ça, c'est des choses qu'effectivement, on avait besoin de voir sur le set, quoi. Et donc, de se déplacer vraiment physiquement dedans. Et ensuite, nous, oui, on était au sec. Donc, c'était très étonnant au départ parce qu'on était très, très peu en surface. Toute notre équipe était dans l'eau, donc on était un peu dans un énorme bâtiment au bord de la piscine, tous les deux devant tous nos écrans, parce qu'on avait des retours en temps réel de toutes les caméras, plus des caméras de sécurité qui sont placées partout pour pas qu'il y ait d'accident, évidemment. Et en gros, on avait un système en fait de micros. On avait deux micros. On avait un micro qui donnait sur des haut-parleurs sous-marins qui nous permettaient de parler à l'équipe. Donc, aux accessoiristes, aux machinaux, où on donnait des indications de, tout simplement, comme sur un tournage normal, sauf qu'avec une inertie énorme. C'est-à-dire que nous, avec Alex, on est hyper actifs en général et on est toujours sur le plateau, on parle à nos comédiens, on bouge le décor, on voit avec le chef-op comment on peut, optimiser les choses. Et là, on était un peu frustrés au départ avant de trouver quand même une routine de travail. Mais en gros, là, c'est une demande de déplacer un chandelier. T'envoies au micro et tu fais là, le chandelier, il faut le bouger. Et donc, tu fais OK, j'y vais. Et tu vois, t'as le mec qui part et qui parle, mais hop, il arrive, il fait comme ça. Il fait non, plutôt de l'autre côté. Comme ça. Non, l'autre gauche. Enfin, bref, il y a un truc qui est assez c'est horrible. Pareil pour les particules, pour la densité de l'eau. Nous, on voulait selon les pièces une différente densité. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est envoyer les particules. Donc, je me retrouve avec un mélange de terreau, de choux de Bruxelles mixé et tout. Et là, tu fais ah, c'est bon, là, c'est nickel. Et le temps qu'ils arrêtent, tu fais ouais, OK, on arrête et tout, hop, et tant qu'ils arrêtent, il y en a beaucoup trop. Donc, faut attendre que ça redescende au sol. Mais quand c'est au sol, faut pas palmer trop près du sol, sinon ça redécolle. Enfin, bref. Et donc, il y avait tout ça à anticiper. Et on avait donc le deuxième micro qui nous permettait, cette fois, de parler juste à nos comédiens. Donc là, ils avaient donc un masque qui était équipé et d'un micro et d'une oreillette. Et donc, on pouvait leur parler directement à eux. Et donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire à la fois donc, des indications de jeu, mais aussi des indications de cadrage. Tu vois, il faut qu'on voit ce que vous voyez, littéralement. Donc, des fois, avec des grosses triches où on orientait la caméra vraiment dans une autre direction que celle du regard, parce qu'on avait besoin d'un plan quand il palme. Évidemment, t'as la tête qui regarde plutôt vers le sol. Donc, on changeait les axes caméra et tout. Et c'était un peu fastidieux parce que évidemment parler dans un micro, tu t'entends pas bien, tu dois articuler, t'es tout le temps en train de dire non, il faut que tu fasses, tu vois, donc parler un peu comme
alors que revoilà la soupe
exactement quoi, et c'est trop ça quoi. Et donc non, mais c'est vrai, on s'est rendu compte qu'il y avait des voix qui passaient pas, et c'est attends, on comprend rien, donc ils étaient obligés de se regarder l'un l'autre pour communiquer avec nous, pour nous faire des signes. Et donc, pour qu'on les ait à l'image, quoi. Enfin, bref, voilà. Donc
tout en sachant qu'ils devaient retenir leur respiration pendant qu'on leur parlait. Parce que oui. Respirer sous l'eau, c'est très bruyant. Mmh. Donc, le mec, il t'a... Ok, d'accord. pas d'explication trop longue.
Il fait une vraie tirade, alors les gars, je vous...
Au début, c'était ça. On leur parlait pas dans des plombs. On fait « après, tu vas faire ça. » On entendait des reprises de respiration. On fait « pardon,
mais,
putain. »
Mais pour vous, nerveusement, ça va être pénible. Enfin, je veux dire, bouger sur un plateau, montrer, mimer l'action à un acteur et tout, c'est un exutoire, toi. Ça te permet aussi, en tant que
c'est exactement
le truc et tout, quoi. Et donc, j'imagine que là, c'est quand même... C'est la guerre des nerfs, quoi.
C'est la guerre des nerfs, mais en fait, très vite, on s'est aperçu aussi qu'on n'avait rien à faire sous l'eau. C'est-à-dire que, évidemment, on n'avait officiellement pas le droit de plonger, mais on l'a fait.
C'était James Cameron.
Je sais même pas ce qu'il fait, James Cameron. Non, mais je veux dire par là que, tu vois, on avait... tu vois, c'était un petit bassin, entre guillemets. C'était 21 mètres sur 21 mètres. Et c'était un chantier, en fait, en permanence, ce truc. C'est-à-dire, tu avais de la machinerie, de l'électricité, des techniciens de partout, de la sécu de partout, parce qu'il y avait énormément de sécurité, des plongeurs sécu. On était blindés de. Donc, c'était une grosse foire, ce bassin. Et nous, avec Julien, en tant que metteur en scène du film, il fallait qu'on coordonne le tout. Et coordonner le tout, ça se faisait à la surface avec ce qu'on allait filmer, évidemment. Donc, il fallait qu'on soit devant nos écrans de contrôle. Sous l'eau, on aurait strictement servi à rien, en fait. Mmh. Tu vois, évidemment que sur n'importe quel tournage, soit il y a un de nous deux qui est toujours proche de la caméra ou qui cadre, ou l'autre qui est au combo, et puis on est les premiers, on fait nous-mêmes la déco. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Même les Américains, ils nous disaient « Mais arrêtez, c'est pas votre travail !» Mais c'est comme ça qu'on fait depuis le début. Mmh. C'est-à-dire qu'on met les mains à la pâte, on touche les trucs, on touche tout, on refait la déco, tu vois. Quand ça nous plaît pas, c'est nous qui bougeons les trucs. On est tout le temps au cul du chef-op. Des fois, c'est même nous qui secouons le chef-op. Enfin, tu vois, on est très physique. Même nous qui secouons les acteurs hors champ. On n'est pas du tout... C'est là où les mecs avaient un peu halluciné sur les orfesses. Parce qu'il faut savoir que généralement, les réalisateurs américains sont dans le vidéo-village, ce qu'on appelle village, c'est-à-dire une tente où tu as les retours vidéo et tu es assis et puis tu regardes tes écrans. Et quand ils ont vu qu'on sortait du vidéo-village pour venir sur le plateau pour rebouger les trucs, ils nous regardaient et ils qu'est-ce qu'ils font ? Bah, on fait comme on a toujours fait. Et effectivement, là, on ne pouvait pas le faire. Donc, c'était très frustrant au début. Mais très vite, après, tu vois, cette frustration, en fait, c'était un des facteurs de ce tournage hors norme. C'est-à-dire s'asseoir sur le côté, bah putain, on peut pas aller au contact des acteurs, on peut pas leur souffler dans l'oreille, mais vas-y, fais comme ça. Et puis remets-moi ce cadre comme ça.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et tu penses que ça a eu un impact sur le résultat final, toi, du coup ?
Franchement, Julien, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas, c'était la façon de faire la mieux, en tout cas, parce que sous l'eau, on serait allé sous l'eau faire ce qu'on aurait fait au sec, mais moins bien, tu vois, pour communiquer. Sous l'eau, déjà, c'est impossible, hein, tu vois, entre deux plongeurs, là, pour le coup, c'était galère. Et donc, ce système de micro, c'était ce qu'il y avait finalement de plus efficace pour nous, tout en contrôlant 4 écrans de contrôle en simultané. Parce que mine de rien, il faut quand même avoir les... Tu vois, quand tu fais... T'es comme ça, hein. Pour essayer de choper tes rushs, voir ce qui se passe. Et finalement, c'était la meilleure façon de procéder. C'est évident. Enfin, moi, je pense.
J'aimerais bien qu'on parle des fantômes, en fait, de l'aspect fantastique du film, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de l'aspect, plongé, quoi. Non, mais c'est très intéressant. Mais justement, en fait, c'est un vrai film d'horreur, en fait, à proprement parler. Et bon, toi, je sais que t'es plus comme moi, t'es un gros bourrin qui aime bien le cinéma d'action, tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà. Et alors qu'Alex, pas du tout. Tu vois,
quoi?
Toi, je sais que t'es un mec sensible qui aime l'horreur.
Mec, tu sais ce que j'ai revu il y a deux jours, American Warrior 2 déjà.
Voilà.
Excuse-moi.
Tu triches, il y a du gore. Non mais voilà, il y a,
moi,
y a ce côté très fantastique. Non mais toi, depuis que je te connais, je sais qu'aussi t'as une énorme culture fantasticophile.
Assumez
les gars, c'est bon. Avançons. Mais je sais que, c'est vrai qu'Alex a une énorme culture fantastique. On en parlait énormément, en fait, quand on était plus jeune. Il me passait plein de cassettes, de trucs espagnols et tout, quoi. Et du coup, je me demandais, en fait, comment vous êtes posé cette question, en fait, sur la façon de représenter les fantômes dans votre film, par rapport à éventuellement vos références. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais bon, après, on en reparle. Mais je voulais quand même avoir votre avis, en fait, sur le côté, voilà, on fait un film qui est en anglais, qui est quand même à destination internationale, et il y a quand même quelque chose de très français, je trouve, en fait, dans vos...
en tout cas, très européen.
Et moi, c'est mon gros regret, en fait, sur le film, c'est que je trouve qu'on est vraiment sur des rails, en fait, là-dessus, mais peut-être que c'est quelque chose que vous assumiez, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, merde, ils sont là-dedans, ils sont dans ce contexte et tout, et je me suis dit, surtout qu'il y a une référence à Lovecraft et tout, et je me suis dit, ils vont creuser un peu, ils vont chercher quelque chose, et finalement, j'ai trouvé ça... je suis désolé, ce sera mais très convenu, en fait. Je me suis dit, ah putain, là-dessus, ils vont pas me surprendre, quoi. J'aurais pas de truc qui va me secouer, quoi.
Mais j'aimerais bien qu'on entende Clémence.
Non, mais en plus, Clémence, il y a des trucs super intéressants à dire sur le
non, non, mais justement,
genre,
c'est intéressant,
en fait,
de savoir effectivement
l'eau.
Comment vous l'avez appréhendé.
Mais en fait,
on l'a
appréhendé comme le décor. C'est-à-dire que on savait d'entrée de jeu qu'on n'avait pas avoir 15 millions ou 20 millions d'euros pour faire ce film.
Oui, bien sûr.
Ça, déjà. Et donc, déjà, faut y penser tout de suite.
Excusez de pas avoir foutu Cthulhu, quoi.
Non, parce que c'était pas notre but.
Non, mais vraiment,
il a jamais été question pour nous, justement, malgré cette petite référence à Lovecraft. Que tu vois, seuls les mecs un peu pointus vont souligner.
C'est gentil, merci.
Non, parce que tu vois, dans l'absolu, il y a plein de gens qui vont
Non, mais peu importe.
Et donc, c'est vrai que pour le mec qui entend ça, bah, pour moi, oh putain, il va y avoir Cthulhu, quoi.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une promesse, il y a une promesse de, comment dire, de sortir de certains référents très classiques. C'est-à-dire que Lovecraft, c'est pas le même fantastique que Léo de Hurlevent, quoi, tu vois.
Non, bien sûr. Mais alors, ouais, attends, allez, juste pour finir là-dessus, oui. Juste pour le côté la menace.
Allez, je t'attends.
Non, mais on avait comme volonté, en tout cas, Julien, c'est très simple, on voulait aussi, tu vois, que notre menace soit aussi palpable et physique et incarnée que notre décor. C'est-à-dire qu'on voulait, tu vois, dans le film, une fois qu'on rentre dans la maison, il n'y a pas de CGI. Le seul élément CGI, c'est le poisson, chat qui suivent. Tu vois, c'est
bio, hein.
Qui est plutôt pas mal. Ouais. Et le reste, c'est 100% dur. Nous, par exemple, tu vois,
sauf les plafonds.
Si on veut prendre, on a très peu rajouté en numérique parce que toi, en scope, ça nous a aussi beaucoup aidé. Mais alors, tu vois, un exemple très concret. Regarde devant moi, j'ai une affiche d'un parce que effectivement, Steph, on s'est beaucoup battu sur. Même à Mad et tout, mais en toute amitié, hein. Même avec toi, Julien, sur des films, on s'est écharpé. Tu vas dire, non, j'aime pas, t'es nul, mais qu'est-ce qu'il aime des Tours Mortels, Blaireau, j'adore, c'est chef-d'œuvre. Etc.
Il y a plein de gens qui me demandent encore si tu signes d'ailleurs et que tu considères que, comment il s'appelle,
Jonathan Lee Bassman est le Carpenter de demain.
J'en suis un peu revenu.
Merci. On me pose souvent la question.
Je me suis, c'est vrai, un peu excité.
Mais grosse private.
Par exemple, voilà. Nous, par exemple, on s'est. Mais je pense qu'il y a un tronc commun dans notre cinéphilie commune, évidemment.
C'est clair, évidemment bien sûr.
On aime tous James Cameron, on aime tous Sam Raimi, et on aime tous Guillermo del Toro, des mecs comme ça, des intouchables, Peter Jackson, etc. Mais par contre, tu vois, nous, moi, en termes de référence, un des plus beaux films de maison hantée récents, c'est Crimson Peak, tu vois, qui est, moi, c'est pas mon Del Toro préféré du tout, mais par contre, je trouve que le film, visuellement, c'est, le bâtard, quoi. T'as le château, enfin, la maison, elle est incroyable, c'est un décor en dur. Moi, à chaque fois que le film, je le revois plus pour son décorum, son production design, que l'histoire qui est finalement très belle, hein, mais qui est pas non plus révolutionnaire. Mais par contre, le seul truc, moi, qui m'a toujours fait chier, mais de ouf, sur ce film, et je me suis dit, mais pourquoi un mec aussi intelligent que Guillermo del Toro a fait ce choix artistique qui, pour moi, est nonsensique, c'est justement son spectre. C'est-à-dire que qui sont en CGI. C'est-à-dire que, putain, moi, je trouve le design du spectre mortel, dans l'absolu, un peu décharné, sanguinolent, qui sort de la salle de bain.
Il n'est pas en CGI, hein.
Alors, je sais que c'est un vrai... Non, c'est un vrai acteur, mais qui a été retouché.
On parle des ajouts.
Ouais, voilà. Et qui fait que tu les sens. Alors que tu dis, putain, mais moi, je vois que ça. Et du coup, ça me sort du truc. Alors que, à mon humble avis, hein, il aurait mis un personnage physique comme il a toujours fait finalement sur le labyrinthe de Pan, où tu vois, ça bouge pas.
Il y a du CGI aussi, hein, dans les deux.
Oui, mais alors, pour le coup,
tu cherches là-dessus, Alex.
Non, mais bien sûr, mais tu vois, je trouve qu'il est trop visible, et pour moi,
c'est une créature. Complètement la conversation.
Non,
il envoie une tonche à James Cameron, maintenant à Del Toro.
Non, pour te dire que pour nous, voilà, c'était ce qu'on voulait éviter, ce côté créature retravaillée, trop numérique, on voulait quelque chose de vrai.
Je te parle pas de technique, moi, je te parle d'approche d'une mythologie, en fait. C'est-à-dire
d'être
sur des rails complets, en fait, d'être sur un récit qui sortit de l'eau, et finalement, alors je suis désolé, hein, mais moi je l'ai perçu comme ça, très convenu finalement, complètement sur des rails d'un genre extrêmement cadré, quoi.
Alors, si je peux me permettre juste une réaction, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve pas que ça soit convenu, parce que justement, tout l'intérêt du film, c'est de reprendre tout ce qu'on connaît par cœur de la maison hantée, et de le voir sous un autre angle, parce que sous l'eau, ça prend une dimension différente.
Alors, je suis d'accord, mais je trouve ça...
Quand les personnages, quand ils arrivent aux abords de la maison et qu'ils se retrouvent devant cette grille immense, ces scènes, on l'a vu dans des centaines de films, sauf que là, ils n'ont pas escaladé, ils n'ont pas cherché où se faufiler, ils ont juste à sauter par-dessus. Quand ils doivent courir parce qu'ils se font courser par une entité quelconque à l'intérieur de la maison, c'est pas la même vitesse, c'est pas la même dynamique, parce qu'ils sont dans l'eau, leurs mouvements ne sont pas les mêmes. Et pour moi, c'est... ça qui fait l'intérêt du film et qu'il soit sous l'eau. Et finalement, rajouter une dimension différente en mettant un Cthulhu ou autre chose, ça déplacerait l'attention sur.
Moi, j'ai une frustration là-dessus, mais peut-être que du coup, enfin voilà, que ce qu'a dit Clémence, c'était une intention en fait de votre part. C'était ma question.
Moi, j'aime Clémence. et elle devrait avoir son podcast toute seule.
C'est son podcast.
Non, mais sans vous. Évidemment que tu prends le film au sec et ça devient un film de maison hantée assez classique. Mais c'est ce que vient de dire Clément, c'est ce qui nous amusait.
Vous l'avez déjà fait en vrai, en plus.
On l'a déjà fait, mais sous l'eau, effectivement, tout est différent. C'est-à-dire que ce qui est devenu un archétype au sec, tu vois, devient amusant, intéressant, devient.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'une porte qui s'ouvre toute seule, tu vois, tu peux limite plus faire ça dans un film au sec. Mais sous l'eau, d'un coup, tu vois, il y a un truc, tu vois, il y a une étrangeté naturelle de par l'élément, ou un grincement, ou un piano qui joue tout seul. Enfin, tu vois, c'est des figures hyper classiques de la maison hantée, quoi. Et pourtant, tu vois, il y a un truc, justement, sous l'eau, ça devrait pas se passer comme ça. Tu dis, mais attends, mais non. Enfin, tu vois, il peut pas y avoir un courant d'air, un courant sous l'eau, bon, non, tu vois, et puis le piano qui joue. Enfin, d'un coup, ça rajoute un niveau de réflexion dans la tête du spectateur, de dire, attends, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça, du coup. Et en fait, pour les fantômes, c'est pareil. C'est-à-dire que. Nous, on trouvait ça, en fait, c'est l'histoire aussi du film, hein, c'est-à-dire que la maison, on a choisi de ne pas la faire complètement pourrie, décrépie et tout, parce qu'il y a une espèce d'entité donc maléfique qui la conserve. Et donc, pour nous, c'était pareil, pour les fantômes, c'est-à-dire qu'on souhaitait qu'ils aient l'apparence la plus normale possible. Et en fait, nous, on trouvait ça flippant. Et on se disait, mais putain, en fait, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est comme si, vraiment, la maison n'était pas sous l'eau, comme si ça n'avait pas bougé, tout était figé. Et on se disait, putain, mais avoir quelqu'un sous l'eau, normal totalement, qui n'est pas justement un monstre, un zombie, tu vois, pourri, qui est plus attendu finalement. D'un coup, tu sais, t'as un mec normal qui est là, qui est sous l'eau, et il te regarde, tu vois. Putain, mais moi, je me chie dessus, quoi. Tu vois, je me dis, bah, non, mais vraiment, tu vois, il y a un mec qui est là, et là, pour lui, c'est normal, il est sous l'eau, quoi. Donc, il y a un truc qui va pas, en fait. Et donc, nous, c'était ça qui nous intéressait. C'était vraiment ce côté du décalage, de l'étrangeté, quoi. Du truc, ça devrait pas être comme ça, tu vois. Il y a un truc de pas naturel. Et quand tu dis, tu vois, et vous parlez de Cthulhu, de Lovecraft et tout, Lovecraft, c'est pas que Cthulhu, quoi. Tu vois,
Évidemment.
C'est aussi ça. Et c'est aussi ce côté de. Ton quotidien devient étrange. D'un coup, t'entends une musique qui va t'obséder, qui va devenir un truc qui te met mal à l'aise, ou d'un coup, ta maison qui était ton environnement naturel, tu vois, va te paraître menaçante et tu vas entendre des choses et tu vas voir des choses que tu ne voyais pas. Et donc, du coup, c'était plus dans cette continuité de Lovecraft qu'on t'inscrivait plutôt que dans les grands anciens et le côté.
Toutefois, on en revient quand même en fait au truc où c'est des fantômes très français, quoi.
Alors, c'est quoi, Steph, fantômes très français?
Parce que
la maison, c'est quand même la maison de partie de chasse en Sologne, hein, j'ai reconnu, c'est bon, tu vois.
C'est vrai. Quel bel hommage à Brigitte.
Et surtout, en fait, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est en plaisantant à moitié, en sortant du film, j'ai dit c'est un Chabrol sous l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté très, c'est pas évidemment pas que les personnages, mais j'entends vraiment toute la famille en fait qui est sous l'eau, enfin cette maison familiale. Ça renvoie à un type de cinéma français très spécifique que les Américains ou les gens peuvent pas du tout. Mais je sais. Mais en fait, que les Américains ne peuvent pas comprendre en fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas du tout dans leur optique cette vieille maison avec le vieux fusil au-dessus du truc.
C'est ça qui est cool.
Non, mais c'est intéressant. Bah oui, c'est cool. Mais je voulais que vous en parliez. C'est pour ça que.
Ah bah c'est notre identité. C'est-à-dire que tu vois, nous on se considère pas comme des. Enfin, tu vois, on se considère comme des réalisateurs français pour le coup. Vraiment, sans revendiquer le côté français, monsieur. Non, mais vraiment, tu vois, et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour que le film se passe en France, parce qu'au début, quand on a commencé à l'évoquer avec Clément, tout début, hein, ça devait se passer en Louisiane, tu vois. Donc là, pour le coup, on était parti sur un autre délire, c'était une maison du Ku Klux Klan, tu vois, donc c'était comme ça, hein, dans du brainstorm entre nous, la prod, etc., quand vraiment ça devait être 100% in English. Donc, et après, donc, on a changé notre fusil d'épaule pour X raisons. Mais, et donc, quand on est revenu, entre guillemets, à nos racines, c'est-à-dire la France, et bah ouais, bah, ça induit que nos fantômes, comme tu disais, allaient forcément être influencés par notre culture, qu'on estime, nous, notre culture française, entre guillemets. Et donc, et forcément, par tout un pan du cinéma français qu'on idolâtre, Chabrol en premier. C'est-à-dire que on s'est jamais caché d'être des fans absolus de Claude Chabrol. pour X raisons qu'on n'a pas le temps de développer. Si tu veux, on fera un podcast spécial Chabrol. Mais il y a des trucs mortels, hein, Steph. Hein.
Non, non, mais certes, je n'ai pas dit le contraire. En fait,
mais en tout cas, et d'où cette identité très marquée, campagne, un peu bourgeoise, province, et par la maison, évidemment, qui est le personnage principal pour nous, la maison. Hein, tu vois, c'est pour nous le héros, entre guillemets, du film. Enfin, c'est la maison, d'où le titre. Hein. C'est ce qu'on veut voir, c'est ça, c'est la Deep House. Et les habitants sont presque un bonus, tu vois. Et donc ces habitants, ces fameux habitants qui, c'est vrai, sur le papier, c'est comme tu dis, t'as totalement raison, c'est du bon gros franco-français de province. Donc on voulait vraiment les voir comme des, tu sais, un peu des fin de race décadente bourgeoisie de province, comme Chabrol l'a toujours dépeint finalement, tu vois, avec ces gens... où tu sens que un peu à la Twin Peaks, hein, attention, c'est une façon de parler, mais ça rejoint finalement le même discours. C'est sous le, voilà, Burton des belles années, c'est-à-dire que sous le vernis, du côté un peu irréprochable du notaire de province, à côté, bah, ça peut être soit des partouzeurs, des pédophiles ou des satanistes, et oui, ça, bah, on kiffe. Partout de chasse en soleil, quoi. Il n'y a pas de fellation sous la table, vrai, comme dans Partout de chasse en soleil, que je connais très bien. Ouais. Ah, mais c'est vraiment, hein, ouais, bizarrement, c'est un de mes Brigitte l'avait préféré, mais finalement, mais c'est pas loin non plus. Et tu vois, et ça fait partie, bah, ça en tout cas, tout un pan du cinéma
renvoie tout
que nous, on adore.
Français,
Comment ça s'est fait, du coup, ce retour, du coup, en France? C'est vous qui avez dit ça, du coup, à votre prod, qui a dit non, mais il faut qu'on revienne en France?
Honnêtement, c'était il y a assez longtemps maintenant. Je ne me souviens plus vraiment des détails, pour être honnête, Julien, mais je pense que ça a été à un moment une décision de prod, de se dire, attends, c'est galère. En plus, nous, on tournait un autre film en parallèle, qu'on préparait, qu'on a tourné, qui s'appelle Candy Shah. Mine de rien, ça... Parce qu'on faisait en parallèle le tournage de Candy Shah et après, en soirée, la prépa de The Deep House. Donc, tu vois, on avait des journées mais de psychopathes, quoi. Mais on faisait du 7h à 1h du mat, 2h du mat. Mais ouais, je crois que c'était pour des raisons, en fait, purement après de production. De se dire, putain, les gars, s'il faut se déplacer en Louisiane, ouais, etc., ça va remettre un billet. Après, évidemment, les mecs, ils font aussi des plans de business. Il y a aussi un crédit d'impôt très sympa en Belgique.
En Belgique, ouais.
Qui fait que, bah, écoute, finalement, les mecs, ils se sont dit non, faut qu'on tourne en Europe, donc faut qu'on tourne pas loin de chez nous. Après, on a fait le tour aussi des bassins. Tu vois, mine de rien. Et les bassins de cinéma, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns de très connus, mais qui sont en très mauvais état. Il y en a qui sont loués à l'année, comme Pinewood, où tu vois, où pour y aller, tu fais attends, mec, bah ouais, mais il y a 4 James Bond avant toi, il y a Indiana Jones, il y a ce que tu veux, j'en sais rien. Il y en a un qui venait d'ouvrir à Boyana en Bulgarie, là où on a tourné Les Orfesses. Donc on l'a aussi envisagé, mais pour se rabattre sur la Belgique. Donc tu vois, et ça a des répercussions sur le film, sur le côté artistique.
C'est-à-dire
le fait que les mecs après nous disent finalement on va pas tourner en Louisiane, on va se rabattre en Belgique. Donc nous, tu vois, on se dit mais très vite après on est revenu en fait à cette configuration de se dire non, faut que ça soit en France, etc. Mais ce qui nous a pas frustré, hein, tu vois, parce que c'était un autre délire, en tout cas si le film s'était déroulé aux États-Unis, mais voilà. C'était quoi vraiment la question là?
On parlait de références des fantômes, on parlait de ces trucs-là, parce que c'est vrai qu'on peut, en fait, finalement, on peut faire tellement de choses différentes avec ce concept-là que voilà, vous avez votre approche évidemment, mais c'était juste. Voilà, bon, finalement, on a répondu aux références, hein, je pense que c'était assez clair, quoi. J'aimerais bien qu'on parle un peu de Candy Shah par contre, du coup. Puisque
non, t'as pas l'air d'en avoir. Ah, si,
qui a été tourné déjà.
Bien sûr.
Ah
bah, on l'a tourné avant.
Ouais, et qui va sortir
Le 29 juillet, là, en VOD. Après, il sort en Blu-ray DVD à la rentrée.
C'est vrai, Candy Shah.
Ouais, c'est le mois prochain.
Directement en VOD.
Ouais. Alors, le film devait sortir, était vraiment à pâti des deux confinements, en fait. C'est-à-dire, quand on était confinés la première fois, on était en tournage de The Deep House. Et il nous restait 2 jours de post-prod sur Candy Shah, qu'on menait en parallèle. C'est-à-dire, quand on tournait Deep House, nous, après le soir, on allait en post-prod de Candy Shah. C'était centralisé en Belgique, donc ça, c'était plutôt cool. Donc, on faisait des journées de tournage ou de prépa de ouf sur The Deep House. Et le soir, on allait à l'autre bout de Bruxelles, chez notre compositeur, pour travailler sur la musique de Candy Shah. Même un jour, on a dû splitter. Julien a dû partir à Paris pour l'étalonnage, alors que moi, je tournais sur Deep House. Donc c'est l'intérêt aussi d'être deux. Donc c'était assez bordélique. Et il nous restait un jour d'étalon et un jour de mixage qu'on n'a pas pu faire à cause du premier confinement, qu'on a fait qu'après. Et après, le film devait sortir dans la foulée en octobre. Et il s'est pris le deuxième confinement et la deuxième fermeture des salles dans la gueule. Donc après SND un peu tout gelé, c'était un peu la panique à bord. Et là ils ont revu leur plan d'attaque, hein, toi, comme beaucoup de distributeurs. Hein, dont les cartes ont été totalement rebattues en moins d'un an. Et pour opter pour cette sortie en VOD dans un premier temps, mais ce qui nous va nous très bien, dans le sens où qu'une envie c'était que le film soit vu. Tu vois, on est tellement dans une époque un peu bizarre entre guillemets. Tu vois, à un moment, on a juste flippé de se dire, mais ça se trouve, le film va jamais sortir, quoi, tu vois, ou on voulait pas qu'il reste sur une étagère. Donc, le film va être exploité, certes, on aurait préféré qu'il y ait
une sortie sale.
Mais, bah, comme tout le monde, on n'est pas, tu vois, bien sûr. Mais à l'arrivée, on est content parce qu'il y aura au moins un support physique du film, une vraie distrib derrière, la VOD, ça marche, mine de rien. Surtout que c'est un film qui s'y prête, enfin, du moins, on le pense.
Alors, nous, on l'a pas vu, mais tu peux peut-être le pitcher un peu vite fait, puisque ça sort en même temps, finalement.
Un mois plus tard, un mois près, quoi.
Ouais, effectivement, ils ont. Ils sortent quasiment en même temps. En fait, c'est un film qui est basé donc sur la légende d'Aïcha Khandisha, qui est une légende marocaine et qui est en fait une succube qui est l'équivalent de la Dame Blanche pour nous en Europe, même un peu plus largement dans le monde. Et en fait, c'est vraiment basé sur une histoire vraie, en fait, d'une femme qui a été persécutée. Je vais pas rentrer dans le détail, mais pendant l'occupation portugaise. Et donc qui en fait séduisait les soldats pour les attirer et les tuer ou les faire tuer par ses complices. Et donc en fait avec le temps, elle était donc passée d'une figure de la résistance à finalement à une espèce de créature un peu maléfique. C'est une histoire qu'on raconte donc aux enfants pour leur faire peur et donc leur dire attention, si t'es pas sage, Aïcha Khandisha va venir te chercher, etc. Sa particularité, c'est que c'est une femme qui est proche de la sirène, c'est-à-dire qu'elle est très très attirante et très séduisante jusqu'aux hanches. Où en fait là elle a des pattes de bouc ou des pattes de chameau, ou ça dépend un petit peu des régions et tout, mais en gros elle est à moitié animale, moitié humaine. Et donc nous notre histoire, ça se passe dans un quartier d'une cité, et c'est l'été, il y a trois copines en fait qui invoquent Aïcha Khandisha sans y croire réellement. Et en fait, elle apparaît, et le truc, c'est qu'elle doit tuer un certain nombre d'hommes, elle ne tue que les hommes, et donc elle se met à tuer les hommes de leur entourage, donc sans discernement, et donc elles vont essayer d'enrayer le processus maléfique, quoi.
D'accord. Et on la voit un peu, cette créature, comme ça, sans spoiler, je veux dire, forcément, mais on la voit dans cet angle, de cette manière
dont
tu l'as
décrit,
là. Tout à
fait. Nous, en fait, comme on a toujours envisagé tous nos films, c'est-à-dire que... Nous, on montre les choses, quoi. C'est-à-dire que, justement, t'en parlais dans un podcast il n'y a pas très longtemps de Stephen King qui disait est-ce qu'on ouvre la porte ou non.
Nous,
on met un coup de latte dedans.
C'est bien, c'est très bien.
Voilà, et comme tu disais, des fois, on voit la fermeture éclair du monstre, mais au moins, voilà, on a le mérite d'avoir voulu le montrer, quoi.
Ah bah, tu vas le voir.
Tu vois, et donc.
La fermeture, le monstre. C'est un film de monstre.
Bien.
Voilà, et on l'assume complètement, et elle est tangible, c'est une vraie créature.
Mais je pense que c'est notre film le plus généreux en termes d'effets spéciaux. C'est un
d'accord,
film qu'on a. Ah ouais, c'est un vrai slasher.
Vous avez bossé avec qui du coup là-dessus?
Avec Afonso toujours.
D'accord.
Avec Olivia Afonso, et c'est un film qui a une logique de slasher. Hein, tu vois, c'est nous, on reste, tu vois, dans nos petites lubies et obsessions, où c'est vraiment ce faune qui vient en cité démastiquer des mecs. Et on s'est éclaté parce qu'on a tout fait en live aussi. On a fait plein de scènes de meurtre sur le plateau, parce que nous on est des fous furieux amoureux des effets pratiques.
Le lapsus.
Des
effets numériques.
Je l'ai pas dit.
T'es vraiment un salaud. Hein.
Ah, tu vois, il m'a déstabilisé.
T'as vu comment il fait, t'as vu ses techniques là.
Là. Et donc voilà, en tout cas, peut-être qu'on pourra se retrouver pour faire un prochain épisode 2 sur Khandisha. Quand vous voulez, les gars. Mais en tout cas, nous, c'est un film dont on est très fiers.
Et donc, c'est français, vraiment.
Totalement français.
On est en français.
Et quoi comme budget du coup là?
Là, c'est 2,6 millions.
D'accord. Ah oui, ça va.
C'est le budget. 2,6 millions, c'est le budget qui arrive. C'était un peu malin.
Ouais.
C'est le budget lambda d'un French Frayer. Tu vois, c'est le terme un peu chelou là.
Oui,
qui...
mais c'est pas la misère totale.
Non,
quoi.
Non, on a eu Canal, SND. Tu vois, on était plutôt pas mal. c'était ça va, tu vois, mais ça reste quand même, tu vois, pour faire un film de créature avec 10, un body count de 10 mecs, avec des cascades, avec des mômes, ton agent cité la nuit.
Non, mais bien sûr.
Avec de la pluie, avec une vraie mise en scène, non, et du stead, on a des drones, on s'est fait chier sur Candy Shah, mais tellement fait. Vraiment, on l'a tourné en 25 jours. Ah, et 25 jours, c'est pas long. Hein. Pas long, tu vois, donc à un moment, on était sur 3 équipes, c'est-à-dire moi, je prenais une équipe, Julien, il prenait une équipe. Après, on prenait le premier assistant, on lui fait bon, ok, on lui faisait des shot list, on lui filait une caméra, tu fais ça. La nuit, parce qu'on était tellement timé, il fallait rentrer, mais tellement le plan de travail, il était intenable sur Candy Shah. On s'est dit, mais comment on va rentrer ce truc? Donc tu vois, on avait un peu de moyens, mais finalement, ça restait quand même ric-rac. Tu vois, pour donner juste un ordre d'idée là-dessus, Julien, qui nous a fait bondir après avec Julien, c'est on sort de Candy Shah, 25 jours de tournage, donc 5 semaines de tournage. On arrive en montage avec Baxter toujours. Et là, tu vois, donc, le montage, c'est cool. Tu vois, t'as moins la pression, t'as rentré le film. Bon. Et là, tu vois, on était à la cool un jour, je me souviens. Et puis, il y avait des archives, tu vois, dans la salle de montage où on était. Et on tombe sur le plan de travail de Tanguy 2. Tanguy 2, qui n'est pas non plus, tu vois, en termes de mise en scène et d'enjeu à l'image, un film.
C'est vieux,
tu vois.
Ça, en plus, ça existe.
Oui, ça a quelques années maintenant, Tanguy 2, donc de Diane Châtillaz.
Mais Châtillaz est connu justement pour avoir des plans de travail monumentaux parce qu'il est hyper perfectionniste.
Bah, hyper perfectionniste, mec, il l'a fait en 45 jours.
Ah ouais, ah,
putain, on a fait 45 jours, mais les gars, on fait deux films en 45 jours. Mais The Deep House a mis moins de temps à le faire.
Il est connu
pour
ça.
Et moi, je l'ai vu, Tanguy 2, tu vois. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est pas James Cameron, justement. Tu dis que le mec, ok, il peut être perfectionniste et prendre du temps parce qu'il fait des trucs, il invente des trucs, il fait des trucs de gueudin. Mais là, on était sur du champ contre champ dans l'appartement, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu fais, qu'est-ce qu'ils font?
Mais je sais qu'il est connu pour ça, quoi.
Enfin, bon, je ne savais pas. Mais bah,
en tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai, c'est qu'Étienne Châtillès n'est pas James Cameron.
Donc, Étienne Châtillès, Del Toro, machin, voilà, il s'est fait plein de copains.
Non, mais moi, Del Toro, on adore. Hein.
Non,
c'est juste un bémol sur le fantôme qui, selon mon sens, aurait été mieux sans ajout numérique.
Et moi, je voulais quand même poser une question parce qu'on arrive vers la fin. Enfin, je vais pas.
Il y a une fin. Truc.
Non mais moi, je vous ai vu.
Il y a de la bande. Comment ça se passe?
Je vous ai vu. Je vous ai vu bosser du coup sur à l'intérieur. Enfin, on vous suit depuis à l'intérieur en tant que duo et tout. Là maintenant, vous avez fait un paquet de films et tout. Comment ça a évolué entre vous deux en fait depuis? Parce que ça a l'air de fonctionner super bien. Ça.
En fait, ils ont un troisième frère chez moi.
Non, mais c'est intéressant parce que je pense que en plus toi, Alex, quand t'étais arrivé sur à l'intérieur, enfin Julien, t'avais un peu plus d'expérience qu'Alex là-dessus et tout. Je pense que ça s'est rééquilibré tout ça, mais je pense que peut-être que les rôles que vous attribuez ont peut-être changé ou alors se sont affermis. Enfin, ce serait peut-être intéressant d'avoir justement votre point de vue sur comment votre relation de travail elle a évolué en fait au fil du temps, quoi, au bout de cette filmographie qui commence à être fournie, mine de rien.
Bah, 6 longs métrages quand même,
ouais, c'est pas rien,
c'est
quoi.
Pas mal en 15 ans. Hein.
Ouais, surtout pour des films, pour des films de genre français.
Mine de rien,
il y a aussi ce truc de cette idée de survivre en fait dans ce système en fait qui est compliqué quand même, quoi.
Mais là quand même, vous en avez laissé un paquet sur le carreau depuis, quoi.
Bah ouais,
un paquet
et on en est triste, hein, tu vois.
C'est malheureux. Spectateur,
parce que je parle de cinéaste, enfin il y en a pas beaucoup qui tiennent aussi longtemps.
Bah ouais, alors en ce qui concerne nos duos, bah c'est simple, tu vois, Julien c'est mon meilleur ami. Enfin, c'est naturel en fait, tu vois. C'est pas un rapport de travail qu'on a tous les deux, c'est un rapport que t'as avec ton meilleur pote en fait. Où tu vois, où la base de notre amitié c'est se marrer en fait, parce qu'on adore rigoler.
On
aime rigoler. Mais c'est vrai. Mais tu sais, par exemple, il y a des mecs qui nous regardaient sur le tournage de Deep House, ils ne comprenaient pas parce que dès qu'il y avait un temps mort, on jouait à Terminator. Tu vois, Julien, c'est Karl. Il fait Karl. Mais tout de suite. Et moi, je suis T-1000, tu vois, genre plus fin. Tu vois. Et on fait des combats de Terminator. Donc, et les gens nous regardent, je dis, oh les Gaulmont. Mais tu vois, mais vraiment, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font les deux là? Il y en a qui marchent. Et on se pourchasse vraiment comme ça, tu vois, on fait vraiment des
Bon, les gars, faut finir là.
On a le temps.
Ça devient gênant là.
Non, tu vois,
je me rappelais pas que vous étiez aussi à la cool sur à l'intérieur. Non, ça c'est venu, vous avez
attrapé. Non, oui, sur le tournage, on est toujours très à la cool, ce qui veut pas dire qu'on est en dilettante. C'est-à-dire que pour nous, le tournage, en fait, tu vois, enfin, même tout, c'est-à-dire de A à Z, de la prépa à la fin de la post-prod, tu vois, c'est déjà, c'est une chance de faire du cinéma, d'en vivre, donc on va pas faire la gueule non plus. Et pour nous, c'est un travail d'équipe, en fait. Tu vois, nous, on se considère pas du tout comme des génies, mais au contraire, comme des gens qui allons voir des gens plus doués que nous pour nous aider à concrétiser nos visions un peu tarées, même nous canaliser parfois, comme on a pu l'être, par exemple, sur Candy Shah, où on a travaillé ça on en reparlera peut-être, mais avec un producteur qui était également scénariste, qui est Guillaume Le Mans. Mmh. Et je pense que ça va peut-être avoir une influence sur Candisha. Parce que tu vois, je pense que, comme tu le disais, tu me l'avais souvent dit avec justesse, hein, Steph, là où le bas blesse dans notre cinéma, c'est souvent le scénario, parce que bah, tu vois, on est un peu en mode freestyle et qu'on écrit pour nous-mêmes, parce qu'on n'a pas de proposition française. Mmh. Du moins, depuis un certain temps. Maintenant, bizarrement, ça se décante là, mais bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, notre relation, je pense qu'elle a évolué sans changer, en tout cas. C'est-à-dire que moi, oui, effectivement, j'avais moins de bagages techniques que Julien, mais j'ai appris aussi au fur et à mesure. Et après, maintenant, ça fait que à l'arrivée, tu vois, il y a pas un plus technique que l'autre. En fait, on est totalement complémentaires. Surtout, tu vois, c'est-à-dire que on va autant parler aux acteurs qu'au chef-op. Et puis, on se prépare beaucoup aussi en amont, tu vois, et aussi avec notre chef-op et notre premier assistant. C'est-à-dire que très vite, c'est les pièces maîtresses, tu vois, du truc, et le chef déco aussi beaucoup. Et donc, on prépare beaucoup, beaucoup comme ça en amont, mais d'une façon harmonieuse dans un mood cool, parce que tu vois, c'est quand même super cool de faire du cinoche, tu vois. Donc et nous, on a envie que les gens soient heureux sur nos plateaux, qu'ils viennent pas à la boule au ventre, parce que tu vois, il y a sur plein de tournages, il y a les dictateurs, hein, et tu vois, mettre la pression aux gens, c'est pas du tout notre façon de travailler. Et donc on essaie la bonne ambiance qu'il y a entre Julien et moi, qui est pas du tout simulée, parce que sinon je pense qu'au bout de 15 ans tu continues pas ensemble, en fait, tu peux pas tenir. Surtout dans un métier pareil. Et fait qu'on veut répercuter la bonne humeur qu'on a tous les deux sur le reste de l'équipe, qui fait que après, bah, les gens, s'ils sont bien détendus à la cool, vont donner le meilleur de même.
Je suis avec vous.
Voilà.
Non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a, en fait, ça fait donc 15 ans qu'on travaille ensemble, et donc on a mis en place. En fait, j'ai l'impression qu'on a grandi en tant que réalisateur ensemble. C'est-à-dire qu'on a,
oui,
on
c'est
a,
ça, en
on
fait,
a appris ensemble. C'est-à-dire que quand tu dis que j'avais un peu plus d'expérience, enfin, j'avais trois fois rien. C'est-à-dire que j'avais fait des cours autoproduits avec mes potes et mon frère. Enfin, tu vois. Et donc, oui, j'avais fait une école de ciné et tout, mais en fait, on a vraiment appris ensemble, quoi. C'est-à-dire que c'est sur à l'intérieur qui a été hyper formateur pour nous. Et effectivement, tu vois, t'as ce souvenir-là, parce que tu vois, l'ambiance était cool, mais c'est vrai qu'on était stressé, on n'en menait pas large, on avait storyboardé l'intégralité du film et tout. Enfin, tu vois, on voulait pas merder, quoi. Tu vois, on savait que c'était une chance énorme et qu'il fallait pas se planter, qu'elle était pas donnée à tout le monde, que tu vois, il y avait, sortant d'une école de ciné, tu vois, on avait côtoyé des gens, voilà, qui, tu vois, tout le monde rêvait de faire ce qu'on faisait, quoi. Et donc, on s'est toujours senti hyper privilégié, en fait. C'est-à-dire que ni Alex ni moi, on vient d'une famille de cinéma, quoi. C'est-à-dire que voilà, nos parents n'ont rien à voir, on connaît pas du tout ce milieu, et donc on mesure encore plus la valeur de ce qu'on a, quoi, et de la chance qu'on a tous les matins de se lever et de se dire putain, mais on fait le métier de nos rêves, quoi, dont on rêvait gamin réellement. Qui peut dire ça, quoi? Donc du coup, on
sur le tournage de Leverface.
Non, mais vraiment,
le tournage était super, hein,
on s'est éclaté, quoi, tu vois. Et du coup c'est ça, on se dit, mais attends, on n'a pas le droit de se plaindre, d'imposer les choses aux gens. Quand les gens le font, travaillent avec nous, travaillent entre guillemets pour nous, c'est vraiment qu'ils ont envie et qu'on a réussi à leur communiquer notre vision du truc et qu'on les emmène tous ensemble, et tu vois, et on est plus des agglomérateurs de talents, tu vois, que des réalisateurs, tu vois, dans notre tour d'ivoire, tu vois, comme on peut avoir le cliché à la Kubrick, j'en sais rien, tu vois, de dire moi je contrôle tout, il faut que tout soit exactement comme. Non, nous on est preneurs des idées, on dit mais attends, mais nourrissez-nous, tu vois, ok, on n'aime pas, on aime bien, pas de problème, on en discute. Et donc du coup, c'est dans cette énergie là, enfin, nous on se, comme dit Alex, nous on travaille beaucoup en amont pour justement pas arriver sur le plateau et avoir des doutes, tu vois, et à discuter entre nous, faire merde, c'est quoi le plan d'après, ou je sais pas quoi.
Non, vous engueulez.
Non, mais voilà, mais ça, c'est une image qu'on peut pas se permettre de donner quand on est deux, tu vois, de le doute, tu vois, de se dire, bah merde, il va falloir trouver une solution. Alors oui, si, on trouve des solutions sur le plateau, bien sûr, mais en tout cas, quand on s'est déjà préparé aux problèmes qu'on pouvait anticiper. On sait qu'il y aura ceux qu'on pourra pas anticiper, mais en tout cas, voilà, du coup, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde, et on sait qu'on peut du coup se séparer, et qu'on se dit, oui, moi j'ai entièrement confiance en ce qu'il va dire, et Alex en ce que je vais dire, et donc, tu vois, et même si on se fait en permanence, on communique en permanence, et on se dit, voilà, tu vois, j'ai dit ça, on est d'accord toujours, ouais, ok, on est d'accord, etc. Donc non, c'est une méthodologie de travail qui est franchement idéale, on n'a pas envie de...
Voilà, et qu'on n'a pas envie de changer, hein, parce que, tu vois, nous, on a énormément de potes issus de la première vague Tu sais, fameuse French Fryer, là. Mmh. On est très potes avec Xavier Jans, on est très potes avec Fabrice Duvels, avec Pascal Laugier, etc. Et, et on se demande tout le temps, mais comment ils font pour supporter la pression de ce métier qui est quand même sans pitié dans l'absolu, tu vois. On fait c'est tout seul. Et c'est aussi notre force, c'est-à-dire qu'on a... En fait, notre carrière, c'est 95% d'échecs. C'est-à-dire qu'on se mange en permanence des murs. Tu vois, si on a réussi à faire deux films back-to-back, là, c'est qu'on avait signé 8 projets. Signé, développé, payé. C'est-à-dire qu'on avait 8 projets chez 8 producteurs différents. On le savait. On multiplie nos chances, en fait. Parce qu'on sait très bien que sur les 8 projets, la moitié allait se casser la gueule. Mmh. L'autre allait pas se faire ou allait mettre remisé dans des placards. Mmh. Et si on veut travailler, eh ben, faut qu'on fournisse déjà des envies chez les producteurs. Et avec Julien, c'est ce qu'on fait en permanence. Mmh. C'est-à-dire qu'on multiplie, entre guillemets, les projets pour être sûr au moins de tourner pas tous les 5 ans. Et tu vois, là, ça a porté ses fruits parce qu'on a réussi à faire deux films back-to-back. Et c'est ce qu'on continue à faire actuellement. Sans mettre une échelle de valeur pour les projets, c'est-à-dire on n'est pas là à pipoter les prods, c'est-à-dire que quand on s'engage, c'est que ça nous plaît vraiment. Mm-hmm. C'est pas genre on emmagasine plein de trucs puis on verra ce qui popera le premier. Non, c'est vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur et qu'on a pour la plupart écrit en plus, voire même tous. Et c'est aussi ça la force d'être à deux, c'est qu'on abat plus de boulot aussi, c'est-à-dire qu'on fait presque les 3-8 des fois, c'est-à-dire que moi, tu vois, on est presque ouvert de 7h du mat à 4h du mat. Tu vois, t'as un petit laps de... On est joignable, on répond très vite aux mails, on bosse en permanence. Tu vois, donc, nous, on est... Tu vois, il y a l'inné et l'acquis, on l'a toujours dit. Tu vois, il y a des mecs dans le cinéma comme dans d'autres arts qui ont l'inné, c'est-à-dire ils sont doués naturellement, c'est des génies, etc. Il y en a. Nous, on se considère absolument pas comme ça. Et notre premier film le prouve, qui est bourré de défauts. Nous, on peut plus revoir à l'intérieur aujourd'hui. Même si on a beaucoup d'affection pour le film, mais on est là en termes de mise en scène et tout. On se dit, ah, putain, mais on le referait maintenant. On atomiserait ce qu'on a fait. Vraiment, on le pense vraiment. Mais donc pour nous, c'est l'acquis. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour progresser. Et c'est pour ça aussi qu'on aime et être confronté aux mauvaises critiques. C'est-à-dire, on se dit, les gens sont intelligents. Tu vois, si un mec n'aime pas, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, moi, j'ai envie de l'entendre, en tout cas. Tu vois, par exemple, là, il y a
Je préfère quand même Clémence.
Il y a un journaliste qui a détesté The Deep House. Vraiment, hein. Et donc, du coup, on l'a contacté.
Il y en a un, quand même.
C'est pas toi.
Tu m'avais dit que j'étais le seul.
Depuis, il y en a un autre, mais encore plus véhément que toi. Et pour le coup, on l'a contacté, mais vraiment, tu vois, sans aucune arrière-pensée de comment ça t'aime pas, mes couilles. Non, vraiment, ton avis nous intéresse parce qu'on sait que dans son journal, on va être bazardé en un demi-feuillet et il va dire, ouais, c'est de la merde, on s'en branle. Mais du coup, nous, on lui dit, dis-nous pourquoi c'est de la merde, parce que du coup, vu que t'as un cinéphile très averti, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, mais tu trouves ça nul. Et c'est notre façon à nous de progresser. Tu vois,
ça t'aide vraiment, ça.
Bien sûr que ça m'aide. Tu vois, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Baxter. Parce que Baxter, il est sans pitié. C'est-à-dire que Baxter, il te regarde, il dit, c'est de la merde, les mecs. C'est de la merde. Vous êtes des nuls. Et tu vois, il dit, OK, et maintenant, comment progresser? Et tu vois, on n'a pas d'ego à ce niveau-là. Tu vois, on est vraiment parce que justement, quand t'as un mec comme Baxter, moi que je considère personnellement comme peut-être le meilleur monteur actuel sur le marché en termes de cinéma de genre, en tout cas, tu regardes les films d'Aja, c'est monté au cordeau.
Ouais,
tu regardes ce qu'il a fait sur Maniac, c'est hallucinant parce qu'il faut savoir que Maniac, il y a eu un premier cut qui n'était pas celui de Baxter. Et c'était un autre film, c'est-à-dire que les mecs n'arrivaient pas à le monter. C'est-à-dire qu'il y avait les rushs qui étaient à la fois génial et complètement.
Ce qu'il a fait sur Deep House, c'est hyper étonnant. Hein. Moi, Deep House, c'est pareil. Le film le mieux monté de tous vos films.
Et Baxter, par contre, lui, nous a jamais, jamais, jamais ménagé. C'est-à-dire que. Et c'est ce qu'il fait aussi avec Aja. Et c'est aussi pour ça qu'Aja le garde précieusement. C'est parce qu'en fait, c'est précieux la vie de gens. Où il n'y a pas de côté faux cul, dire c'est génial, un peu comme les Américains, ils font ouais, great, c'est pour tout ce que tu fais, tu chies par terre, ouais, c'est super. Tu vois, alors que là, non mais c'est ça hein, sur les orfesses, hein. Les mecs disent ouais, c'est super. Et parce que les prods qui nous ont culés sur les orfesses, ils voyaient les rushs, ils venaient sur le tournage, ils disaient ah, great, puis après ils t'enculent. Tu fais mec, encule-moi direct, comme ça après, moi je préfère à la rigueur. Tu vois, et au moins, tu vois, et on a ce rapport avec des mecs comme Baxter qui fait que, non mais c'est ça en fait. C'est pour ça que tu vois, Steph, quand tu nous dis moi j'aime pas vos films, mais ça remet pas en relation notre amitié, nos et c'est, comme avec Arnaud, c'était exactement pareil, comme avec Rafik, qui doit pas en penser moi. Rafik, tu vois, je pense qu'il a dû regarder 10 minutes d'intérêt, il fait bon les gars, moi je vais pas le faire.
Rafik, il l'a vu avec moi en salle.
Il a dû vomir. Mais
est-ce que... Il l'a vu avec moi en salle.
Non mais tu fais que, voilà, quand c'est un bienfait, la critique, on a été tous critiques autour de cette table à dézinguer les films Nomad ou ailleurs. Mmh. Donc, c'est déjà un juste retour des choses. Et tu vois, c'est toujours intéressant d'avoir un retour, en tout cas, qui pourrait que te faire, entre guillemets, progresser, selon nous, d'un mec qui dit, bah, moi, j'aime pas, et voilà pourquoi j'aime pas.
Mais je préfère quand même Clémence.
Évidemment, on préfère tous
Clémence. Ça sera le mot de la fin, parce que...
c'est bien, toi, je vais être réinvité à chaque émission.
Ah
non, mais le mot de la fin, pourquoi? Bon, on est bien là.
Pourquoi? Il y a ce monsieur derrière qui s'appelle Alain Mercier, la technique.
Après, pourquoi tu montes ta montre, Alain? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de couvre-feu.
Moi, j'ai une dernière question.
Dernière question, Clémence. On se calme. Mais après, on parle un peu de ce qu'on a vu.
Deux minutes.
J'appellerais bien Arnaud Bordas aussi.
On a parlé de l'actualité. C'est quoi les projets pour la suite?
Ah!
En deux minutes.
Alors, bah non.
Sur les huit projets, les huit
prochains. Alors, les huit, c'était. Ouais, il y en a qui sont passés à la trappe.
Écoute, alors en deux minutes, on va dire qu'on est en train de retravailler avec le producteur de The Deep House, donc Clément Miseret. Donc on est en train d'écrire un scénario pour lui qui est, en gros, on n'aime pas trop parler des projets en détail, tout simplement parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a combien qui se font et qui existent, et donc du coup c'est toujours un peu con de dire on va faire ça, puis en fait t'en entends plus jamais parler. Donc mais en tout cas voilà, celui-là est bien parti, on est en train de travailler dessus.
On peut dire que c'est un film d'aventure.
C'est un film d'aventure
exotique.
Ouais.
Ah, on est
dans
l'horreur.
Vous sortez du
un peu survival quand même.
Ouais, et, mais ça reste
en fun footage.
Pourquoi pas,
avec des ados qui sont dézingués. Ah
bah voilà.
Non, donc un truc d'aventure, d'accord.
Et okay, un transgenre.
Ouais. D'accord, pour te faire plaisir. Bon,
un film d'aventure.
Vous voulez pas faire une comédie?
Non.
C'est vrai.
Ce serait pas bon.
Non. C'est vrai.
Bah non.
T'es très drôle toi, Alex.
Bah non, pas très drôle moi.
Non, je te connais un petit peu moins, Julien, c'est pour ça.
Non, mais je te connais un peu plus, c'est
vraiment beaucoup d'humour quoi.
Juju est super drôle. Mais non, mais en fait, toi, je pense que ça, c'est encore plus dur, quoi. Je pense que.
Mais justement, c'est des gens quand même, mine de rien, voisins sur plein de trucs, notamment au niveau rythmique et tout.
Bah, oh là là, t'as envie de faire caca, Alain?
Il y a Alain qui est pas bien, là.
Il fait chaud. Non, je pense que la comédie, pour le coup, on se sentirait pas à l'aise, tu vois. Et puis nous, on a envie d'être cohérent avec nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que même si on aime les comédies, notre passion, c'est avant tout le cinéma de genre, entre guillemets. Et au moins, même que t'aimes ou t'aimes pas nos films, ils sont, mine de rien, dans leur entité, ils sont cohérents, du moins selon nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent être schizophrènes comme on l'est à deux, parce que tu vois, mine de rien, de travailler à deux, c'est qu'on a une vision commune qui ne l'est pas finalement. C'est-à-dire, on est quand même, tu vois, on a la même image en tête, mais elle sera forcément différente. Si on pouvait les projeter au détail près, tu vois, s'il y avait un projecteur mental, ah ouais, en fait, toi, tu penses ça comme ça, tu vois, évidemment. Ce qui fait qu'à l'arrivée, le film, c'est quand même le croisement de deux visions identiques, mais d'accord, qui ne le sont pas vraiment. Mais et donc voilà. Donc, mais pour revenir aussi sur les projets, on développe aussi un remake d'un grand classique oublié d'un grand maître du fantastique, dont on ne dira pas plus, dont on a les droits. Donc ça, on est en train de l'écrire aussi. Et aussi, donc voilà, je te disais tout à l'heure qu'on ne nous propose pas grand-chose en France, mais là, on nous a proposé un script qu'on a accepté aussi. Donc on développe aussi, c'est un troisième projet, donc on est concrètement sur trois projets vraiment.
Donc
là,
pas un truc que vous écrivez à l'origine, quoi. Ça c'est aussi, c'est
voilà,
une première.
Là,
quoi,
voilà, là c'est un script qu'on nous a proposé clé en main, qui était je crois qu'il était sur la blacklist. Enfin bon, bref, je suis pas sûr en fait. Mais qu'on développe là, et qui est super cool, et donc on a accepté. Et par contre, bah, lequel se fera en premier, ça on ne saurait te dire à l'heure actuelle.
On va conclure en rappelant que donc Candy Chat, votre prochain film, sort le 29 juillet en VOD à la rentrée, en Blu-ray et DVD. Et Deep House, vous pouvez le voir dès à présent au cinéma puisqu'il est sorti ce mercredi 30 juin. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Alexandre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
Merci Clémence.
Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
Merci Clémence.
Merci.
On termine avec une annonce au cas où vous seriez passé à côté. C'est bientôt l'anniversaire de Capture Mag, 9 ans déjà. Et pour l'occasion, on vous propose une soirée spéciale. Ça sera le 3 juillet au Club de l'Étoile à Paris. On vous a préparé un programme aux petits oignons avec l'enregistrement d'un épisode de Capture Live en direct, la projection de Mort ou Vif de Sam Raimi amis et l'avant-première du prochain Stéroïde. Et puis évidemment des cadeaux et des surprises.
Pas dégueulasse, hein,
Maro
Vif.
Et je viens direct.
Ouais. Vous savez qu'on a une anecdote sur Maro Vif. C'est-à-dire qu'on est vraiment.
Ouais, tu le gardes pour la prochaine.
Non, on va la dire, on va finir là-dessus. C'est que juste après l'intérieur, il y a. En fait, on a été contacté par DiCaprio pour réaliser The Orphan, qui s'appelle en français Esther. Et nous on reçoit le scénario et putain entre le scénario dément quoi, je viens m'appeler, ah c'est mortel le twist et tout, en fait elle a 45 ans la gamine et tout. Et donc on part à Los Angeles, on rencontre l'associé de Léo, mais on voulait pour refuser le film. Ah mais tu sais que c'est un des meilleurs potes de Camiro, hein, de notre actrice. Bah ouais, bah passe Noël tous les ans chez lui. Elle joue aux cartes là, les trucs de loup-garou là, tous les dimanches ils font des parties de loup-garou avec Léo. Et ben bref, on rencontre son associé, tu vois, et pour lui dire non, écoute, on trouve le script génial, mais on n'a pas le niveau pour le faire. Filez-le à quelqu'un de plus expérimenté, nous on sent trop rookie, quoi. Et on commence à parler sur DiCaprio, tu vois. Et le mec, tu sais ce qu'il nous dit ? Le film que Léo déteste dans sa filmo, c'est Mort au Vif. On a fait quoi ? What the fuck? Et là, vraiment, mais ça nous a.
Le mec, il a fait la plage, c'est le seul il a truc fait, je sais pas combien de conneries.
Et nous, on a dit, bizarre, c'est quand même un meilleur film que Critters 3.
Ah oui.
Et le mec, il a fait, ah, tu marques un point.
Il nous parlait d'Esther et nous, on restait bloqués là-dessus. Putain, il aime pas.
Non, mais il aime pas Mort au Vif. Mais vraiment, on est resté bloqués. Non, mais
vous conseillez aux auditeurs d'aller voir Mort au Vif?
Mais ouais,
bien sûr,
c'est sur grand écran, mortel.
Chef d'œuvre absolu.
Venez le voir à la séance spéciale anniversaire de Capture Mag le 3 juillet prochain au Club de l'Étoile à Paris. Vous pouvez déjà dès à présent réserver vos places. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. La semaine prochaine, retour à la formule habituelle. On parlera du nouveau blockbuster signé Marvel, Black Widow. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.